Bien, mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Je vous invite à désigner un secrétaire de séance. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. Je vous propose de désigner Astrid Tussaud comme secrétaire de séance. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Rapport 2 à reconduction de la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes de la collectivité soumis au contrôle de légalité. Je vous propose, mes chers collègues, de reconduire pour une nouvelle année la convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission des actes de la collectivité soumis au contrôle de légalité, conclue avec la préfecture de la Marne le 29 janvier 2007, et d'autoriser la signature de l'avenant numéro 8. Y a-t-il des questions sur ce point ? Monsieur Lefebvre.
Oui, c'était tout d'abord pour l'adoption du PV de la séance dernière.
Il n'y a plus d'adoption de PV puisque maintenant c'est des PV dématérialisés.
Oui, donc est-ce qu'on peut intervenir sur la session passée ? J'avais une question que j'ai posée durant cette séance et à laquelle vous n'aviez pas répondu. Est-ce que vous me permettez que je la repose ?
Laquelle en l'occurrence ? Oui, mais je me souviens
plus. Oui, c'était sur le comité de pilotage du musée, quelle était sa composition ? Je crois que vous avez fait une allusion à ce qu'il s'est réuni une fois. Bon, alors je voulais savoir s'il y avait des membres de l'opposition qui étaient dans ce comité de pilotage.
Est-ce que tu as la liste, Christian, du comité de pilotage ? Il y a surtout les représentants des services de l'État. Enfin, c'est le... Comment ? Du musée, oui.
Officiellement, il n'y a pas de représentants de
l'opposition. Non. On doit être tous les deux, Christian et moi, de mémoire. Et le reste, c'est... On a une... Oui, et puis on a en fait surtout des services de l'État déconcentrés, je vais pas dire concentrés, mais services du ministère, région, département.
C'est un peu dommage parce que c'est le
conservateur en chef des monuments historiques.
La principale réalisation de la mandature.
Oui, mais ça c'est le comité de pilotage qui, comme toutes les opérations importantes, est avant tout un comité à caractère technique. Hein, puisque c'est pour valider notamment les options liées à l'étude de programmation qui est en cours. Donc c'est un travail très technique sur les entrailles des bâtiments et c'est pas une instance politique à mon sens.
Oui, si je peux me permettre, je pense que effectivement les instances de discussion, de débat, de questionnement, nous essaierons d'en faire plus dans des commissions, par exemple, pour tenir compte de l'avancée des travaux. Mais, comme vient de le rappeler Franck Leroy, le comité de suivi, c'est vraiment quelque chose de très technique où, souvent, d'ailleurs, nous laissons la place aux techniciens du ministère, des bâtiments de France, de la DRAC, du musée lui-même, etc.
Et je ne suis pas hostile à ce qu'effectivement, à chaque réunion de la commission attractivité, sous l'angle culturel notamment, on fasse le point dès qu'il y a des choses nouvelles sur ce dossier, parce qu'on attend donc la conclusion d'études qui sont en cours. Elle devrait aboutir de mémoire vers le mois de mai ou juin, et qu'on en fasse à ce moment-là une présentation exhaustive, ça pose aucune difficulté, mais c'est vrai que les comités que nous avons sont des comités sur lesquels on essaie de satisfaire aux demandes du ministère, où on intègre les demandes du conservateur en chef des monuments historiques. Enfin, c'est des choses pour lesquelles, en règle générale, on n'a pas de désignation d'élus.
Monsieur le maire, s'il vous plaît.
Oui.
Merci, monsieur le maire. On souhaite vous proposer de modifier quelque peu l'ordre du jour de cette réunion.
Non, j'ai répondu. J'ai répondu à madame Perrin.
Laissez-moi. Merci.
Bah, attendez, je suis. Je préside la séance. Il y a un ordre du jour classique.
Mais attendez, les circonstances un peu particulières des décisions que vous prenez, notamment en ce qui concerne le bassin de plein air, mériterait que cette assemblée puisse en discuter et non pas que vous preniez des décisions seules sans, je dirais, débat démocratique.
Monsieur Richard, s'il vous plaît.
Oui, monsieur le maire,
je ne peux pas accepter qu'on impose des sujets à l'ordre du jour.
Je souhaiterais
le moment venu puisque c'est prévu dans le Conseil. Collègue Marc Lefebvre a posé des questions sur le sujet, on y répondra tout à l'heure. Mais si on commence par faire les questions diverses avant de faire les questions principales du conseil municipal, je suis désolé. Vous aviez la possibilité de poser des questions, vous ne l'avez pas utilisée, Marc Lefebvre l'a utilisée. On répondra à la question quand Marc Lefebvre évoquera le sujet tout à l'heure. Ça s'est toujours passé comme ça au sein du Conseil.
La démocratie vous gêne. Il y a pas mal de gens qui sont venus pour justement entendre
parler
de cette question.
Mais attendez, vous prenez cette initiative. Moi, ça me dérange pas que les gens viennent.
Mais
ne les prévenez pas de venir à ce moment-là au début du Conseil, alors que ça va être évoqué à la fin.
Ce n'est pas seulement nous.
Je vous propose de passer au rapport.
Vous invitez les gens à venir, les habitants à venir voir comment ça se passe et manifester par là même, par leur présence, leur mécontentement concernant cette décision qui, encore une fois, a été prise sans aucune consultation, concertation du conseil municipal. Non, mais en même temps, il faut que ce soit dit, excusez-moi, parce que toutes les décisions, vous les prenez en fonction d'une délibération prise par cette assemblée en début de mandat, je crois que ça devait être au deuxième ou troisième conseil, qui vous donne les pleins pouvoirs pour décider, pour faire, et nous, on est simplement à la remorque, on est informés. Oui, en plus, l'élégance du
si
jeu, c'est qu'on est informé par un
si
mail.
Si vous êtes à la remorque, par je n'y suis pour rien.
Par un mail.
Interrogez-vous d'abord sur vos méthodes de fonctionnement.
Je ne vous permets pas.
Oui, non, ben, je ne vous permets pas non plus. Donc ici, c'est moi qui préside la séance, M. Richard. Donc je passe au rapport suivant.
Bon, ben, écoutez, donc, en ce qui nous concerne...
Avis contraire sur le rapport 2A.
En ce qui nous concerne,
abstention.
Nous ne participerons pas à cette délibération,
vous participez
ni
pas
même
si vous
à cette séance. Principe de protestation.
Eh bien, allez-y. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2B. Nous passons au rapport 2B.
Monsieur le maire.
Bien, nous passons au rapport 2B. Joachim Verdier.
Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine, la ville d'Épernay et la société pluriale Novilia, anciennement Toit Champenois, se sont engagés dans la restructuration du quartier Bernon. Ainsi, il est prévu le réaménagement du stationnement et notamment la création de box de stationnement par la ville sur l'emprise actuelle du parking Lalo. La société pluriale Novilia souhaite acquérir 8 boxes de stationnement privatifs. Je vous propose donc de céder à Pluriale Novilia les 8 boxes et d'approuver la convention annexée au rapport en votre possession.
Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Marc Lefebvre.
Oui, monsieur le maire, donc c'est un projet important, je crois, 1,9 million d'euros. Pour ma part, je n'ai pas vu de plans proposés visuels.
Oui,
j'ai posé des questions, savoir sur les box un peu plus loin, si c'était couvert, non couvert. Il y avait beaucoup d'interrogations. Donc, où on est, premièrement, est-ce que vous avez des plans à nous proposer, à nous projeter, premièrement. Deuxièmement,
ils ont été présentés
sur ces box, je pense que c'est il y a le fonctionnement. On vend les box alors qu'ils ne sont pas encore réalisés, on ne connaît pas le coût exact. Hein. Et puis, je crois qu'il y a une l'ANRU, si la subvention de l'ANRU n'arrive pas, les 30 000 euros, le Toit Champenois ne prendra pas les box. Donc, pourquoi ? Ensuite, le planning de la démolition est-il en cours ? Aussi, en ce qui concerne les nouvelles cellules, je crois qu'il y a la pharmacie qui n'est pas encore transférée, mais il y a encore 2 cellules, autres, je crois. Qu'est-ce qu'on attend ?
Alors oui, tout n'est pas... Enfin, vous mélangez 2 projets.
Oui, mais je...
Il y a le projet Lalo...
Je profite du dossier de Bernon pour poser les questions. Et puis, le dernier souhait pour ce quartier, puis j'ai la démolition, c'est qu'on fasse le maximum possible pour que la régie de tabac, les journaux soient repris, parce que les jeux, c'est important sur Bernon. J'y vais assez souvent et il y a énormément de gens, de joueurs. Et donc, s'il n'y a pas de rachat du fonds de la régie, je crois qu'il faudrait un petit peu voir avec la tenancière du café si elle pouvait reprendre ça, parce que c'est quand même important pour le quartier.
Donc, si vous voulez sur ce...
On suspend. Franck, on suspend.
Non, mais on va attendre deux minutes.
D'accord.
Je suspends la séance. Concernant les locaux, il y a une réunion publique sur le quartier qui a présenté ces locaux il y a déjà quelques mois de cela. Et me semble-t-il, ça avait été évoqué en commission, mais il y a déjà un moment, puisque ces plans, on les connaît depuis peut-être bien le début de ce mandat-ci. Hein, je crois que c'était à la fin du mandat dernier. Donc ils n'ont pas été représentés peut-être bien au nouveau conseil municipal, mais les plans avaient été présentés et ils l'ont été... Est-ce que vous vous souvenez, il y a combien de temps la réunion publique, ça devait être au début de l'année ou en fin d'année dernière. Enfin, ah oui, c'est une réunion sur le quartier de Bernon, dans le cadre des comités de pilotage habituels, quoi. Ça faisait partie des points évoqués, mais ça avait été présenté en commission. Je crois bien que c'était avant le conseil municipal, enfin, avant le renouvellement du conseil municipal. Donc c'est peut-être pour ça qu'à l'époque vous n'aviez pas eu. Mais enfin, on vous fera passer les plans sans problème. Hein. Il est question d'y localiser la régie de quartier, les services espaces verts de la ville et un certain nombre de box pour permettre justement à des personnes qui souhaitent louer des box sur le quartier d'en profiter. Donc les plans sont à votre disposition, on vous les fera passer dans les jours prochains. Et si d'autres élus souhaitent avoir une copie des plans, il n'y a aucune difficulté. Hein. Mais c'est vrai que c'est un projet déjà ancien qui a pris du retard compte tenu des règles de financement de l'ORU. Et c'est, bon, il aurait peut-être fallu effectivement depuis les élections le représenter en commission, mais il l'avait été à l'époque. Donc la démolition devrait commencer d'une semaine à l'autre. Hein, je pense que qu'est-ce que vous m'avez dit ? Non, on parle de la. Ah non, là je parlais du parking Lalo. Hein, le centre commercial, la démolition a commencé puisqu'une partie qui jouxtait où il y avait l'ancienne boulangerie est déjà par terre. Et pour le reste, bah, tout dépend des acquisitions foncières qui sont en cours, sachant qu'il y a une déclaration d'utilité publique, un arrêté d'utilité publique qui a été pris par le préfet il y a à peu près 3-4 mois. Donc tout dépendra de l'état d'avancement des négociations avec les propriétaires concernés.
Je souhaitais que vous en... entrepreniez des démarches pour que la régie tabac, les journaux et les jeux qui sont importants sur Bernon restent là-bas. Donc il s'agit de trouver une solution.
On a déjà entrepris ces démarches. Maintenant, bon, il y a aujourd'hui Monsieur Lavor exploite aujourd'hui le tabac, Tabac Presse. Il lui a été proposé de déménager. Ce qui, à mon avis, aurait été une bonne solution pour lui, parce qu'il aurait été beaucoup plus facile de vendre son fonds de commerce une fois le fonds de commerce déménagé en face que là. Bon, on a des discussions avec lui, mais pour l'instant, il préférerait vendre alors même que son fonds de commerce actuel est condamné, ce qui ne facilite pas, à mon avis, les solutions de reprise. Ça fait 2 ans que je lui dis qu'il vaudrait mieux déménager et ensuite céder son fonds de commerce. Et en tout cas, on avait pris contact à l'époque avec les services concernés pour qu'effectivement, il n'y ait pas la perte des jeux de hasard, des choses comme ça, parce que l'objectif, c'est surtout pas de perdre un commerce, c'est de le conforter en le transférant en face dans des conditions beaucoup plus adaptées à la modernisation de ce commerce. Mais bon, on est en discussion avec lui, donc je ne peux pas non plus dévoiler la totalité de nos discussions, mais j'espère que ça va aboutir.
Bon, parce qu'il a atteint l'âge de la retraite et il attend pour partir. Oui. Donc, à son âge, il ne veut pas déménager et faire d'autres frais supplémentaires.
Oui, mais en même temps, plus cette situation dure, plus je crains que son activité se fragilise. C'est pour ça qu'on est en contact régulier avec lui. Bien, je vous propose de voter le rapport 2B. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2C, Jacques Fromm.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous invite à émettre un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical sollicitée par la société Champagne de Castellane du 14 mars au 23 décembre 2015 pour le personnel d'accueil en raison de la saison touristique. Cette demande est motivée par l'ouverture dominicale des caves et du musée de cette maison de Champagne.
Merci. Y a-t-il des questions, Monsieur Hergé ?
Oui, je voulais savoir si on avait les avis des autres institutions, notamment syndicats d'employeurs et de travailleurs. Est-ce que les avis ont été rendus ?
La connaissance.
Oui, sur les avis qui sont rendus directement en préfecture. Hein. Les avis n'arrivent pas à l'hôtel de ville. Nous, on doit, si vous voulez, rendre un avis également, mais c'est la préfecture qui gère tout cet aspect social et administratif. Donc on peut, si vous voulez, le demander à la préfecture. Mais s'agissant de Castellane, ce rapport, ça fait 15 ans qu'il passe tous les ans. Hein. Je veux dire par là que c'est la maison de Castellane nous fait cette demande tous les ans. Mais c'est vrai que nous n'avons pas, nous, à avoir connaissance des rapports qui ont pu être délivrés par les organismes professionnels ou autres. C'est la préfecture qui en a connaissance. Et c'est elle qui, au vu de l'ensemble des avis, j'imagine, donne son autorisation.
Oui,
pas d'autres questions, Candy?
Je ne participerai pas, bien entendu, au vote, vous le comprenez, mais je peux répondre. Hein, effectivement, on a l'avis favorable de la préfecture et tous les syndicats sont sollicités et demandent aussi à tous les organismes.
Pas d'opposition, pas d'abstention, donc une non-participation au vote. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2D, 2E et 2F qui sont présentés et qui concernent la mutualisation et la mise à disposition de services entre la ville et la communauté de communes. Et je passe la parole à Christine Mazzi.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, le service commun bureau d'études voirie intervient majoritairement pour des projets publics dans les communes de la CCEPC. Et à ce titre, la direction eau et assainissement est sollicitée pour intervenir en tant que maître d'œuvre dans des projets sur les domaines privés de la ville d'Épernay. Aussi, il convient d'établir une convention entre la communauté de communes Épernay-Pays de Champagne et la ville d'Épernay, qui prévoit notamment les conditions de remboursement des coûts de fonctionnement du service communautaire. En annexe, vous est jointe le projet de convention. Parallèlement, depuis de nombreuses années, la ville et la CCEPC concluent des conventions de répartition de charges qui prévoient des conditions de refacturation des heures d'intervention des personnels municipaux et des fournitures consommées. Il est aujourd'hui proposé de reformaliser ce partenariat afin que la CCEPC puisse solliciter auprès de la ville d'Épernay l'intervention des agents issus des services ateliers, voiries, propreté, circulation, signalisation, mobilier urbain. La convention annexée définit les modalités d'intervention des personnels municipaux et les dispositions financières. Et enfin, d'autre part, le service commun urbanisme assure pour le compte de la ville d'Épernay l'instruction des permis de construire, de démolir, de lotir, les déclarations de travaux et les certificats d'urbanisme. Jusqu'à présent, le dépôt des dossiers a lieu en mairie auprès du service urbanisme municipal, composé d'une responsable, d'une assistante urbaniste et d'une secrétaire. Néanmoins, le départ de la responsable amène la ville à s'interroger sur l'opportunité de maintenir ce service municipal. En effet, il est proposé de créer un guichet unique urbanisme pour les Sparnassiens. Le dépôt et l'instruction des demandes seront ainsi assurés par le même service situé à la communauté de communes. Les deux postes actuellement affectés au service municipal seront redéployés, pour l'un au sein du service commun et pour l'autre au sein du service réglementation. Certaines dispositions de la convention de service commun doivent donc être modifiées par voie d'avenant qui vous est joint en annexe.
Merci. Y a-t-il des questions sur ces rapports? Donc vous avez bien compris qu'ils concernaient les rapprochements qui peuvent exister entre la ville et la communauté. Il y a des mises à disposition, il y a également des démarches de mutualisation et ça n'est que le début puisqu'évidemment nous serons amenés dans le cadre des schémas de mutualisation qui sont prévus par les textes à évoquer et au sein du Conseil communautaire et très certainement au sein de notre Assemblée les évolutions futures de la mutualisation qui est un phénomène qui évidemment que nous avons entrepris au niveau des services des finances, des services juridiques que nous envisageons sur d'autres secteurs et pour lesquels nous aurons à délibérer régulièrement ou au titre de la communauté de communes ou au titre de la commune. Y a-t-il des questions? Monsieur Angers, Monsieur Lefebvre.
Il y a des nuances statutaires entre les agents de la communauté de communes et ceux de la ville, notamment au travers de l'indemnité, glissement, vieillissement, ancienneté, je ne sais plus le sigle exact. Est-ce que ça ne pose pas de difficultés entre agents?
Ça pourrait en provoquer s'il n'y avait pas de convergence entre les deux, d'où la nécessité et sur le temps de travail et sur les systèmes d'évaluation et les systèmes de primes qui sont liés au système d'évaluation, si une réflexion n'était pas engagée. Elle est engagée de part et d'autre. Il y a un groupe de travail qui est à pied d'œuvre au niveau de la ville. Il y a des réflexions qui sont engagées sur le temps de travail également côté communauté commune. Je pense que l'objectif de cette année 2015, c'est précisément de faire converger les dispositifs de façon à ce qu'à terme, on ait, si ce n'est une égalité parfaite, au moins des différences qui ne soient pas trop importantes. Mais c'est un gros travail puisque historiquement parlant, les régimes de primes sont différents. Historiquement parlant, le temps de travail n'est pas forcément appliqué de la même manière, les jours de congé ne sont pas du même nombre, donc il y a tout un travail à faire, mais pour autant on ne peut pas attendre que tous ces problèmes soient résolus pour commencer à travailler ensemble. Monsieur Lefebvre.
Oui, concernant l'urbanisme, nous avons vu en commission qu'il y avait trois cas où il n'y avait pas transfert, c'est-à-dire ravalement des façades, établissement recevant du public et installation à l'enseigne. Alors, quand une personne demande pour le ravalement avec une modification des ouvertures, elle doit faire deux dossiers séparés. C'est peut-être déjà le cas, peut-être.
C'est le cas déjà. Bon. C'est le cas déjà. Mais il est clair que maintenant, pour les permis de construire, notamment, l'accueil sera fait directement à la communauté de communes, comme pour toutes les autres communes de la communauté de communes. S'agissant effectivement des autorisations style enseigne, demande de ravalement, la demande sera toujours instruite au sein des services municipaux qui disposent des agents pour le faire. Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Les rapports sont adoptés. Nous passons donc au rapport 2G. Christine Mazzi.
Merci, Monsieur le Maire. Je vous propose d'accepter l'aliénation du bibliobus au garage Maillère pour la somme de 6 500 € net.
Merci. Des questions ?
Simplement pour dire et redire certaines choses. Donc, ce véhicule, n'avait que 26 000 km, donc c'est peu. Il pouvait encore rouler sans frais supplémentaires, puisque ça faisait un petit peu 1750 km par an. Donc, nous regrettons une nouvelle fois disparition sans concertation, monsieur le maire.
Alors, je précise que c'est un véhicule qui date de 2003, qui est amorti totalement depuis 2010 et qui est aussi difficilement vendable dans la mesure où il est... c'est un véhicule diesel classé norme Euro 4, alors qu'aujourd'hui, tous les véhicules de ce type doivent respecter la norme Euro 6. Bon, j'entends bien vos remarques, mais je pense qu'on a déjà longuement débattu sur ce sujet. Ce qu'on peut également préciser, et peut-être que Christian de Mongin pourrait le préciser, c'est que un certain nombre de mesures avaient été prévues en compensation de la disparition du bibliobus et qu'elles ont été satisfaites et vis-à-vis des écoles pour lesquelles des créneaux nouveaux ont été ouverts pour l'accès aux médiathèques, puisqu'il y a bien nos deux médiathèques qui peuvent accueillir les scolaires, et au niveau des publics à mobilité réduite, je vais les appeler comme ça, il y avait en l'occurrence 25 personnes qui bénéficient aujourd'hui d'un service à domicile. Alors je ne sais plus s'il est assuré par la médiathèque ou par le CCAS, par la médiathèque, et pour avoir eu il n'y a pas très longtemps des retours de ces personnes, elles sont extrêmement satisfaites puisque à la limite le service est plus avantageux aujourd'hui puisqu'on amène jusqu'au domicile, même s'il faut monter dans les étages, les livres que les personnes ont commandés. Alors qu'avant il leur fallait quand même se mouvoir, ce qui n'était pas forcément évident pour elles. Et si d'autres demandes venaient à émerger, évidemment, avec le réseau de lecture publique dont nous disposons, nous avons tous les moyens, le cas échéant, de faire face aux demandes nouvelles. Mais je ne. Bien. Y a-t-il des oppositions, Monsieur Hergé?
Pour ma part, je m'abstiendrai par principe.
Alors, avis contraire, abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant qui concerne la modification du tableau des effectifs ville des emplois permanents. Christine Mazzi.
Merci, Monsieur le Maire. Je vous propose d'approuver la modification du tableau des effectifs telle qu'elle vous a été proposée dans le rapport en votre possession. Cela permettra de procéder d'une part au remplacement de l'une des assistantes de direction du cabinet du maire qui mute dans un autre service de la collectivité, au remplacement d'un agent administratif accueil de la direction du partenariat associatif qui a fait valoir ses droits à la retraite et au réexamen de la rémunération d'un agent employé en CDI à la Maison pour tous.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Avis contraire ? Abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2I. Christine Mazzi.
À la suite de l'arrivée de M. Gorlier Alain au 1er février 2015 en tant que nouveau receveur municipal, il y a lieu de délibérer sur l'attribution d'une indemnité de conseil pour les prestations de conseil et d'assistance apportées à la ville d'Épernay. Je vous propose donc de maintenir le principe d'attribution de cette indemnité de conseil et de la fixer à 100%.
Merci. Bon, ça fait partie des habitudes. Hein. C'est la qualité des relations que nous avons avec le receveur municipal fait que c'est une pratique admise dans toutes les collectivités et nous nous félicitons de la qualité de ces relations. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 2J. Christine Mazzi.
Divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subventions auxquelles je vous propose de répondre favorablement en attribuant les sommes énumérées dans le rapport en votre possession. Et je vous informe également, enfin je vous rappelle qu'il y avait un additif hein, sur votre table.
Oui.
Voilà.
Des questions sur ces subventions ? Marc Lefebvre.
Je ne voterai pas la subvention pour la table ronde. Initialement, donc en commission, j'ai demandé qu'on ait le budget. Hein, et ça nous a été envoyé. Alors, dans ce budget, je vois deux coupes de champagne par personne, éthylotest, soft, etc. Donc, voilà.
Enfin, en l'occurrence, la subvention vise simplement à limiter les coûts de location de la salle, puisque c'est une manifestation pour le 50e anniversaire de la table ronde d'Épernay, que de très nombreuses parnassiens se sont illustrés
oui,
dans la table ronde et mené
gratuite,
de nombreux projets. Et que c'est pas gratuit, hein, attendez. Il y avait une opération caritative à la clé et le budget de l'opération, il est très, très supérieur à 1 500 €. Je n'ai plus le chiffre global de l'opération.
Mais là, 18 000...
Voilà. Donc, l'aide de la ville est de 1 500 € correspondant à une partie de la mise à disposition de l'espace. Pour le reste, l'essentiel du budget était pris en charge par la table ronde elle-même. Donc, c'est une abstention sur ce...
Oui.
Allez, donc, sur cette seule subvention oui. Pour le reste, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous passons à la décision modificative numéro 1. Christine Mazzi.
Je vous propose d'approuver les virements de crédit relatifs au budget chauffage urbain 2015 pour le remboursement des clients du chauffage urbain suite à la régularisation 2014.
Merci. Des questions ? Pas de questions. Avis contraire, abstention. Le rapport est adopté. Rapport 2L, fixation des taux d'imposition 2015. Mes chers collègues, comme chaque année, je vous propose d'adopter la délibération suivante de maintien des taux d'imposition, à savoir pour la taxe d'habitation 25,19%, pour la taxe foncière bâtie 24,28%, pour la taxe foncière non bâtie 34,73%, pour la cotisation foncière des entreprises 20,01%. Je vous rappelle que depuis 2006, la ville d'Épernay a stabilisé sa pression fiscale et a même baissé ses taux en 2007 et 2008. En 2015, ce sera donc la 10e année où la fiscalité est stable ou en diminution, et ce, malgré les baisses croissantes de dotations initiées par l'État depuis 2011. Je précise également que, comme chaque année, le Parlement vote une réévaluation des bases cette année à hauteur de 0,9% compte tenu de la faiblesse de l'inflation et que... Vous pouvez voir d'ores et déjà à la lecture des magazines spécialisés qu'un certain nombre de villes ont choisi de compenser les baisses de dotation de l'État par des augmentations de fiscalité. Bon, j'en ai un certain nombre là, Lyon, Lille, Hyères, Foix, Strasbourg, Besançon, etc. Je ne sais pas si on pourra durablement, en ce qui nous concerne, maintenir cette stabilité des taux. En tout cas, on va essayer de le faire le plus longtemps possible parce que, par les temps qui courent, je ne pense pas qu'il soit... Très facile pour un certain nombre de sparnassiens de régler des impôts en augmentation, alors même qu'ils subissent déjà une pression fiscale extrêmement élevée. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Monsieur Angers.
Oui, simplement, moi je suis toujours un petit peu étonné par la formulation. Les taux communaux sont ainsi stables pour la 10e année consécutive, avec même deux baisses sur cette période en 2007-2008, quand l'on sait que dans le même temps, il y a une réduction du service public. Marc Lefebvre en parlait tout à l'heure avec le bibliobus. Je crois qu'il y a dans cette salle tout à l'heure un certain nombre de manifestants qui se sont plaints de la réduction du service public au travers de la fermeture de la piscine en plein air de Bernon. Je rappellerai également dans le passé que la technique pour artificiellement maintenir les taux, c'était de refiler un certain nombre de compétences à la communauté de communes. Et aujourd'hui, 10 ans après, on s'empresse d'envisager la mutualisation. Donc tout cela, c'est quand même de la technique politique et de présentation des choses. Donc je suis quand même assez étonné donc par cette présentation telle qu'elle nous est faite. Et vous auriez pu, je dirais, vous contenter de ne pas faire figurer cette formule qui me semble un petit peu audacieuse compte tenu du contexte.
Un mot pour vous répondre. Alors, vous avez évoqué les transferts de compétences. Les derniers de mémoire datent de 2003. Donc, c'était bien avant la période qui est évoquée là, puisque j'indique que depuis 2006, la fiscalité, la pression fiscale a été stabilisée. Pour autant, il n'y a pas de lien direct entre la baisse de la fiscalité ou le maintien de la fiscalité et la qualité du service public, puisque au cours de 10 dernières années, je ne pense pas que le service public ait eu tellement à souffrir à Épernay. Il y a eu des avancées, il y a eu dans un certain nombre de quartiers des équipements nouveaux qui ont vu le jour, qui ont permis de rendre le service public dans de bien meilleures qualités. Je pense aux écoles, je pense aux équipements publics à caractère socioculturel, exemple Maison pour tous, je pense à la mairie de quartier, je pense aux équipements sportifs, je pense à la médiathèque Rondeau. Donc je pense que très sincèrement, la qualité du service public à Épernay n'est contestée par personne. La qualité des équipements, elle est au rendez-vous. J'ai oublié la maison de la vie associative, la maison des arts et de la vie associative, qui est un équipement exceptionnel, qui a été financé alors même que la fiscalité n'a pas été sollicitée. Donc je pense que le lien que vous faites, c'est un lien d'opportunité. Vous cherchez à faire le lien entre le mécontentement que peut susciter légitimement d'ailleurs une décision municipale de pure gestion et j'allais dire une réalité par ailleurs qui est celle d'efforts importants qui ont été produits depuis 10 ou 15 ans pour constamment améliorer nos équipements. Je pense que vous vous souvenez il y a déjà bien longtemps des interventions qu'on avait dans cette enceinte où l'opposition mettait le doigt sur, par exemple, l'état des écoles qui, à l'époque, avaient besoin d'être rénovées. Elles ont toutes été rénovées dans cette période. Aujourd'hui, on n'entend plus jamais ce genre de remarques parce que nos écoles sont... Non, mais nos écoles sont en parfait...
Pour faciliter leur rénovation.
Mais si elles sont fermées, c'est qu'il y a moins de classes à Épernay. Et sachez que les gouvernements
de gauche... S'il y a moins de classes, c'est aussi qu'une partie de la population est assommée par la fiscalité et va voir ailleurs.
Monsieur Angers, les décisions de fermeture de classes, elles incombent au gouvernement, de gauche ou de droite, et les uns comme les autres ont fermé des classes. Donc il faut accepter de voir les choses dans leur globalité. Et de ce point de vue... Si vous comparez aujourd'hui l'état des écoles, l'état du parc, des équipements municipaux par rapport à ce qu'il était il y a 10 ou 15 ans, il est incontestablement en meilleur état pour la simple bonne raison que des efforts importants ont été produits. Donc on ne peut pas dire qu'il y a dégradation du service public. Bien. D'autres... Monsieur Lefebvre.
Donc, il n'y a pas eu que des fermetures. Vous prenez la côte ouest de la France, vous prenez le Midi, il y a eu beaucoup d'ouvertures parce qu'il y a un transfert de population.
Ah oui, ça me semble évident.
Mais... Voilà. Donc, deux questions. La première, je l'ai déjà posée, je la repose à nouveau. Donc, malgré l'augmentation des bases de 0,9%, vous diminuez la recette dans le budget de 2015 de 24 200 euros, donc des taxes, du produit des taxes. Alors comment se fait-il qu'il y a une diminution du produit alors qu'il y a une augmentation de 0,9%? Je l'avais déjà dit. La deuxième question est la suivante. Donc en ce qui concerne le détail des allocations compensatoires de l'État... il y a une augmentation donc de la taxe d'habitation. Est-ce que ça correspond à un nouveau barème ou à une paupérisation de la population d'Épernay?
rappeler la deuxième question ? Je n'ai pas compris votre raisonnement.
Oui. Vous avez donc le détail des allocations compensatoires.
Oui.
Vous avez la taxe d'habitation. Donc la compensation de l'État augmente de, je sais pas, 50 000 euros. Alors, à quoi correspond cette augmentation ? Soit à un nouveau barème établi par l'État, soit à une paupérisation de la population d'Épernay.
Non, les allocations compensatrices sont des compensations que l'État attribue à toute collectivité quand des mesures d'exonération profitent à la commune en question. Donc l'État vote des exonérations fiscales, la ville en profite plus ou moins, et l'État est engagé par des allocations compensatrices. Donc il suffit que, dans les règles de l'État, des exonérations supplémentaires aient été consenties pour que, ipso facto, il y ait compensation par l'État de ces allocations, puisque ça n'est pas à la collectivité locale de porter... Elle ne porte pas la responsabilité... Non, c'est pas nécessairement des allocations qui sont en lien avec une quelconque paupérisation de la population. Ce sont, je pense, différents types d'exonérations qui profitent. Ça peut être pour du logement neuf, ça peut être pour du logement social, ça peut être pour des constructions de logements sociaux supplémentaires, par exemple, qui pour certaines constructions sont exonérées. J'ai plus la période en tête, mais oui, par exemple. Et à ce moment-là, l'État compense. Mais il n'y a pas de lien avec une quelconque paupérisation.
Et sur la diminution du produit donc des différentes taxes par rapport à l'an dernier, de 24 200 euros.
Vous voyez ça où ?
Donc le produit des taxes, ça a été inscrit au budget, 19 154 200 euros.
19 millions. Ça peut être lié à une évolution des bases ou ça peut être... Je demanderai l'explication parce que j'avoue que je n'avais pas pointé cette différence. Vous n'avez pas eu la réponse en commission des finances ? La question, on a...
Oui, simplement, il y a un moment où on parle des chiffres réels et à un autre moment, il s'agit du budget prévisionnel. Donc, évidemment, on ne peut pas comparer les deux.
Allez, parce qu'à mon avis, quand on vous donne les chiffres de l'année dernière, on vous donne le réalisé, on ne donne pas le prévisionnel. Donc voilà. Il est possible qu'il y ait une différence à ce niveau-là. Ouais. Et vous observerez, si c'est le cas effectivement, qu'en fin d'année, vous aurez le réalisé et pas le prévisionnel. Le fait de voter un budget prévisionnel fait qu'on imagine des recettes et des dépenses. Chaque année, dans le réalisé, les sommes sont différentes, puisqu'on peut apprendre que, par exemple, des rôles fiscaux complémentaires nous sont attribués, ce qui va augmenter les recettes fiscales. Dans d'autres cas, on a eu, il y a quelques années, je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans, vous devez vous en souvenir, on avait eu une perte de ressources fiscales liée à des actions entreprises par les entreprises d'Épernay pour minimiser leur fiscalité à la faveur de dispositifs fiscaux votés par l'État. Donc ça fluctue d'une année à l'autre, c'est tout à fait normal. Non, puisque là on discute d'un budget prévisionnel. Il faudrait comparer le prévisionnel au prévisionnel. Mais c'est surtout de compte administratif à compte administratif qu'il faut raisonner. Donc on aura dans 2 mois le... Voilà. Dans le compte administratif, dans 2 mois, vous pourrez comparer effectivement les recettes fiscales par rapport au compte administratif de l'année précédente. D'autres questions ? Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3 à Candy Lheureux.
Merci, Monsieur le maire. Comme la parole des aînés présente un intérêt certain pour la vie de notre commune, aussi je vous propose de voter la création d'un Conseil des sages et d'adopter son règlement intérieur. Donc le Conseil des sages sera composé de 30 seniors avec 3 commissions, donc l'animation, le cadre de vie et la solidarité. Donc la première réunion plénière aura lieu au mois d'avril. Donc vous avez 6 juin, vous avez donc le règlement intérieur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre.
Monsieur Angers.
Oui, moi je voulais juste savoir si ce Conseil des sages avait vocation à être écouté ou entendu, et peut-être même s'il a plus de chances et de possibilités d'être écouté et entendu que ne l'ont les conseillers municipaux. Moi, je rappellerai la manière dont nous travaillons en commission, et j'en reste assez désabusé, puisque les commissions n'ont que pour vocation d'examiner en préambule du prochain conseil municipal les questions qui y sont à l'ordre du jour. J'avais déjà fait la remarque à plusieurs reprises, mais j'ai pas eu de succès dans les propos que j'ai pu avancer. Moi, je considère qu'il doit y avoir certaines vocations à prospective dans les propos que nous pouvons y tenir. Moi, je rêve d'un vrai débat politique sur certains sujets où on puisse échanger et faire valoir des considérations et des idées. Ça semble pas être le cas. Si nos anciens sont plus malins pour le faire, pourquoi pas? Peut-être pourront-ils s'approprier d'autres sujets, peut-être le bibliobus, peut-être la piscine en plein air de Bernon pour faire passer certains messages. Si c'est pour nous le moyen demain de faire avancer la démocratie, bien, on essaiera de présenter nos réclamations, voire nos questions écrites préalables quelque temps avant au Conseil des sages, espérant que les moyens de communication sera beaucoup plus parfait que celui que nous pouvons rencontrer dans cette enceinte.
On voit qu'on est en campagne électorale, même si, en l'occurrence, vous ne l'êtes plus. Je pense que le contexte explique beaucoup de choses. Ce Conseil des sages... Attendez.
Pas le contexte, j'ai eu la même réflexion lors de la dernière commission.
Ce Conseil des sages a vocation à fonctionner comme, par exemple, dans un âge différent a fonctionné la commission des jeunes. Oui. Pierre pourrait en parler, à savoir que ce Conseil a vocation à s'emparer d'un certain nombre de réflexions sur la vie des retraités et des personnes de plus de 60 ans à Épernay. Est-ce que la ville est adaptée à leurs besoins? Est-ce que les loisirs qu'ils y trouvent, les activités qu'ils y trouvent correspondent à leurs attentes? Est-ce que les services qu'ils souhaitent en bénéficier existent ou pas? Donc c'est un conseil qui fonctionnera de façon très ouverte, ce qui ne veut pas dire... et vous le comprendrez bien que toutes les propositions qui pourront être faites pourront être retenues, puisqu'il y a quand même un cadre budgétaire qui s'impose, en tout état de cause. On aura, je pense, régulièrement un retour de ce Conseil des sages, qui existe d'ailleurs dans d'autres collectivités, c'est pas une invention sparnassienne, et ce qui devrait nous permettre d'améliorer encore la relation avec les usagers. Quand vous dites que vous n'êtes jamais prévenu des décisions qui sont prises, Je précise quand même que j'ai pas souvenir qu'on n'est pas ici.
Par Facebook. Moi, j'ai été informé, monsieur le maire.
Écoutez, c'est la modernité. Les réseaux sociaux, c'est la modernité.
De Bernon, par le message que vous transmettez sur Facebook.
Parce que
quand même pas mal. C'est qu'on
parce
est,
que
on est quand même
pas,
bien
monsieur Angers, parce que vous n'étiez pas au conseil de quartier de Bernon ce jour-là, monsieur Lefebvre.
J'étais à la communauté de communes ce soir-là.
Monsieur Lefebvre y était, de mémoire.
J'étais à la commission économie et j'ai manqué une heure de débat important.
Ah bon. Mais il y était comme il y est régulièrement, et qu'il me semblait aussi normal que de telles questions soient abordées en lien direct avec les habitants du quartier. Donc on ne peut pas nous reprocher tantôt de décider des choses loin des préoccupations locales, et quand on le fait dans un conseil de quartier, faire comme si ça n'avait pas été fait. On reviendra sur le chier tout à l'heure, on ne va pas engager le débat maintenant, mais ce Conseil des sages, nous avions pris l'engagement de le faire, il est aujourd'hui mis en route, j'espère en tout cas, et j'en suis sûr même, que remontera de ce Conseil des sages des propositions intéressantes, et j'allais dire, quelle que soit l'origine ou la sensibilité des personnes qui le composent, c'est un des principes que nous avons toujours souhaité appliquer. Je rappelle que dans pratiquement tous les grands projets municipaux. Alors c'est vrai que vous n'étiez pas, monsieur Angers, lors du dernier conseil municipal, le mandat d'avant. Mais par exemple, sur un projet d'aménagement comme le quartier de Bernon, nous avons travaillé avec des ateliers de travail urbain composés d'habitants, que les habitants ont pu proposer le réaménagement de leur quartier, que les choix qui ont été faits par les habitants ont été suivis par le comité de pilotage et que c'est une démarche qui a été saluée comme exemplaire précisément parce qu'elle a associé constamment les habitants à l'évolution de leur environnement. Ben, sur la question de l'âge, sur la question des seniors dans la ville, je pense que ce conseil des sages a vocation à permettre l'expression, à permettre le débat et à permettre, je le souhaite en tout cas, que ce débat aboutisse sur des avancées qui profiteront à nos aînés. Tu souhaites compléter?
Oui, bien sûr, ils vont nous donner des idées. J'espère que ça va être constructif. Ça l'est déjà. On les écoute au quotidien, puisqu'il y a déjà un groupe de travail au niveau des animations seulement. Je parle des animations. Et effectivement, on a mis un deuxième créneau. Et eux, ils fréquentent avec joie l'espace Buléo.
Bien. Monsieur Lefebvre.
Bon, donc sur ce règlement intérieur, exception, il y a eu quand même discussion. Et je crois que
c'est la preuve
qu'il y a
débat. Il n'y
avait pas que l'opposition qui critiquait certaines.
C'est la preuve qu'il y a débat, monsieur Lefebvre.
Il y a eu des membres de la majorité. Pour ma part, je dirais que c'est un projet.
Les membres de la majorité n'ont pas nécessairement critiqué, mais participé
encadré
à la rédaction.
Voilà. J'ai la parole, monsieur Demange.
Oui, mais.
Allez-y.
Il fallait bien glisser la phrase.
Oui.
Donc. Ce conseil est cadré et encadré. Et donc, je cite les trois choses. Le maire choisit les animateurs, les rapporteurs, et il choisit les sujets de réflexion. Il y a trois domaines précis, et s'il y a un sujet supplémentaire, il doit y avoir autorisation du maire. Bon. Je termine, si vous voulez. Donc, aucune thématique en dehors de ces trois domaines peut être la réflexion s'il n'y a pas votre autorisation, monsieur le maire, ou de votre représentante. Donc, ce conseil n'a aucune initiative, et ça, c'est à l'article 4 et 9. En ce qui concerne l'article 7, le remplacement, nous étions d'accord, mais ça n'a pas changé. Nous demandions qu'il y ait un nouveau tirage au sort en cas de remplacement des membres, et qu'on respecte à nouveau les 5 zones géographiques. Oui, donc oui. Ça, l'article n'a pas été changé alors qu'on était tous pour le changement de l'article.
C'est-à-dire l'article 7 ?
L'article 7. Donc, nouveau tirage au sort en remplacement d'une personne de la même zone géographique. Parce qu'on ne veut pas, il y a simplement 5 zones géographiques, que tous les quartiers soient représentés. Et ça, on était bien d'accord, Madame Loyau, là-dessus. Non.
Moi, j'avoue que je n'étais pas, pas participé au débat.
Déjà, je vais rétablir les choses, monsieur Lefebvre. Ce règlement vous a été présenté pour information.
Voilà.
C'est un travail.
Je l'ai dit et redit.
Non, mais parce que vous avez très bien entendu, mais comme la presse est là, vous voulez que je le répète. Madame Lheureux n'était pas là ce jour-là. Elle a eu un contretemps et ne pouvait présenter elle-même le travail réalisé par les élus.
Oui.
Qui travaille au sein du CCAS. Et c'était pour information. Je vous ai écouté, je vous ai entendu et j'ai accédé à votre demande d'apporter quelques modifications.
Alors,
ne dites pas déjà que vous avez fait le règlement. On a eu la gentillesse de vous laisser apporter quelques modifications. Mais les élus...
Sûrement très utile.
Les élus, c'est très utile, mais enfin, tous les élus qui avaient travaillé n'étaient pas présents. Et je trouve que c'était un petit peu indélicat vis-à-vis du travail fait en amont lors de X séances de travail. Bon, donc après, j'ai expliqué aux élus qui ont travaillé de nombreuses heures que vous aviez souhaité retirer, par exemple, l'article où on parlait de neutralité. Oui, neutralité pour qu'il n'y ait pas des débats politiques et qu'il n'y ait pas des petites paroles aigre-douces entre membres de partis différents parce que ça ne fait pas avancer le problème.
Voilà.
On est là pour parler de problèmes des seniors uniquement.
Quant à la question de l'article 4, effectivement, le Conseil est composé de trois commissions portant sur des thématiques, vous en conviendrez, très larges. Le cadre de vie, on ne peut pas plus large, c'est-à-dire grosso modo la vie à Épernay. La solidarité, c'est-à-dire toute la dimension sociale et l'animation, parce que ce sont trois préoccupations qui ont été pointées comme étant les principales préoccupation. C'est vrai qu'on aurait pu faire une commission développement économique, mais pour des gens qui ont 60 ans, il y a sûrement des investisseurs en puissance, mais c'était peut-être pas ce qui sautait aux yeux. Maintenant, si Si demain le Conseil des sages veut émettre un avis, une proposition sur d'autres sujets et veut pourquoi pas proposer qu'une quatrième commission voit le jour, moi j'y vois personnellement aucun inconvénient. Ce sera le signe qu'il s'est bien emparé des sujets qui lui étaient confiés, qu'il a même l'envie d'aller sur d'autres terrains, ça pose aucune difficulté. On n'est pas là en train de rédiger la Constitution de 58.
Hein. Ah oui,
on peut
c'est
modifier
pour ça que
le règlement
intérieur. Je demandais lors de cette rédaction, ou plutôt de cette lecture d'informations,
ce n'est qu'un règlement intérieur,
qu'on soit plus souple dans un règlement.
Non, mais à l'expérience, si vous voulez, probablement qu'un certain nombre de choses devront être lancées. Il faut bien débuter sur un règlement intérieur. Et puis s'il s'avère que ce règlement intérieur, il est trop contraignant ou pas assez, ou trop cadré ou pas assez, eh ben, on proposera des modifications au conseil municipal. Annie Loyou.
Règlement intérieur qui s'est inspiré de plusieurs règlements de conseils de sages qui existent autour de nous.
Oui, c'est vrai que...
Monsieur le maire, ma proposition, c'est qu'il y ait au moins deux représentants des seniors par quartier. Il y a 5 quartiers. Qu'il y en ait au moins 2 qui représentent le quartier. Donc quand il y en a un qui décède ou un qui démissionne, il faudrait le remplacer par quelqu'un du quartier.
Bon, écoutez, nous avons fait un tirage au sort dans ce sens. Effectivement, je n'ai pas été à la commission. Effectivement, je n'ai pas pu assister à la commission. Bon. Nous avons fait un tirage au sort, monsieur Lefebvre. Bon, je ne sais pas si...
Allez, vas-y, Candy.
Nous avons fait un tirage au sort dans ce sens, puisque nous avons fait un tirage au sort par rapport aux adresses que nous avons reçues. Pour information, nous avons reçu 44 candidatures, et donc nous avons sélectionné 30 personnes. Donc nous avons pris...
Par tirage au sort. En veillant à ce que chaque quartier, le tirage au sort aurait pu exclure un quartier complet, par exemple.
Et donc nous avons pris les adresses, et nous avons... fait un tirage au sort par une zone d'adresse. Voilà. Donc tous les... C'est pas des quartiers, faut pas dire... Non, c'est 44. Moi, je peux vous le dire. Et puis, quant aux réflexions que j'ai eues par certains membres, sachez déjà, premièrement, que madame la vice-présidente du CCAS, avec qui j'échange au quotidien tous mes dossiers... était très légitime pour le présenter ce soir-là. Ça, c'est déjà une chose. En plus, elle connaît très bien mes dossiers, donc elle pouvait en parler elle-même. Et d'autre part, je ne fais pas partie de cette commission, je le rappelle. Donc, je n'étais pas là, effectivement. Non, mais c'est simplement pour rappeler un petit peu les choses. Voilà. Sachez qu'on échange beaucoup au sein du CCAS et que Madame Loyau pouvait présenter mes dossiers puisqu'elle les connaît.
Non, mais encore une fois, si, monsieur Lefebvre, on va pas passer la soirée là-dessus.
Non, mais je veux dire
là-dessus.
Qu'on était satisfait de la présidence et qui a fait preuve d'ouverture.
Voilà. Merci de le dire. Non, mais si, s'il apparaît que des modifications, très sincèrement, s'il apparaît que des modifications... Monsieur Lefebvre, s'il apparaît que des modifications doivent être effectuées par rapport à un projet qui, vous l'avez compris, s'est inspiré d'autres conseils de sages, on les adaptera, ça ne... C'est pas tragique, et si ça peut conforter nos sages dans la qualité de leur réflexion, pourquoi pas, hein, je pense qu'on n'y verra qu'avantage. Sur ce rapport, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 3B, Abida Sharif.
Pardon. Donc, je vous propose d'approuver le versement d'un complément de bourse au permis de conduire d'un total, la somme est de 600 euros aux trois candidats énumérés dans le rapport en votre possession. Donc, depuis qu'on a mis en route la bourse au permis, il y a quelques années, je ne me souviens plus depuis quand, on peut rajouter un complément de 200 euros par personne. Pour compléter au cas où elle aurait raté son permis, qu'il lui reste quelques heures à faire, pour avoir son permis. Donc je vous propose, il y a trois personnes qui ont besoin de cette somme de 200 euros par personne pour compléter leur permis. Donc je vous propose d'approuver ce versement si vous êtes d'accord.
Merci. Y a-t-il des questions ?
Depuis 2000...
Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4 à Pierre Marandon.
Merci, monsieur le maire. Le point d'information jeunesse organisera le mercredi 15 avril après-midi la 5e édition de la journée Action de Job qui s'adresse à des jeunes gens du bassin sparnassien. Elle a pour vocation de permettre les rencontres et échanges entre, d'une part, des employeurs ou responsables d'associations ou les services de la ville et des jeunes à la recherche d'un emploi, d'un job à temps partiel ou d'un job d'été, pardon, ou d'une formation. A également pour objectif d'offrir un éclairage sur les différents dispositifs d'accompagnement et d'aide à projet et de proposer enfin des ateliers tels que réalisation d'un CV ou entretien d'embauche. La présente délibération vous propose d'adopter la convention de partenariat avec la MGEL qui prendra à sa charge les frais de communication et d'impression d'affiches et de flyers pour promouvoir cette journée.
Merci. Des questions ? Monsieur Angers ?
Oui, je voulais savoir pourquoi la MGEL, il y a une autre mutuelle concurrente,
la mutuelle des étudiants,
ils ne sont jamais intéressés à ces questions-là ?
Parce que c'est traditionnellement eux qui sont toujours les premiers à nous répondre et avec qui on travaille en règle générale, mutuelle générale des étudiants de l'Est. Donc c'est la mutuelle la plus implantée sur le secteur, c'est pour ça qu'on travaille avec eux. C'est eux aussi qui travaillent sur la journée, là c'est une journée action job, et il y a aussi des journées, des forums job, qui sont eux qui regroupent au niveau du département, qui ont la même vocation, mais au niveau départemental, à Reims, à Charleville et dans les autres départements.
Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Jacques Fromme.
Merci, Monsieur le maire. Je vous invite à autoriser le maire à signer la convention annexée au rapport en votre possession établissant les modalités d'attribution et de versement de la subvention attribuée au titre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce pour la réalisation de la deuxième tranche de l'opération urbaine de 10%.
Alors c'est un sujet qui réapparaît après deux ou trois années là, d'attente puisque, vous l'avez noté, la demande a été déposée en août 2012 et effectivement on vient seulement de recevoir une réponse positive. Donc ça a été un peu pénalisant, y compris notamment pour l'opération urbaine de quartier sur Bernon, parce que ça nous a fait perdre pas mal de temps au moment où des négociations étaient engagées avec les commerçants pour le transfert de leur activité. Bon, néanmoins, c'est que ça finit par aboutir. Donc de ce point de vue, ça permettra de mener un certain nombre d'actions de soutien au commerce de centre-ville notamment.
Effectivement, ça nous a beaucoup gênés sur le dossier de Bernon, puisqu'on n'a pas pu attribuer d'aide ou on ne pouvait pas attribuer d'aide aux commerçants qui faisaient les investissements nécessaires sur leur site commercial. Par contre, là, cette délibération touche la deuxième tranche du FISAC du centre-ville, qui va permettre de l'aide sur l'investissement des commerçants au niveau du centre-ville, c'est-à-dire du réaménagement de l'outil de travail, de la rénovation de façade et de la sécurisation du point de vente.
Merci. Des questions ? Pardon ? Oui, oui, merci à l'État, monsieur. Mais non, mais vous savez. Non, mais on sait aussi dire merci quand l'État est généreux. Il ne l'est pas souvent, mais quand il l'est, on lui dit toujours merci. Nous passons. Alors, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant, Anne-Marie Legras.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, la commission départementale des objets mobiliers a souhaité proposer le classement de divers éléments de mobilier de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Aussi, au regard de la valorisation patrimoniale attachée à cette distinction, je vous propose d'émettre un avis favorable à cette proposition de classement.
Merci. Des questions ?
Oui, ce que j'ai posé en commission et je voudrais une confirmation. Donc ces objets, à qui appartiennent-ils ? Est-ce qu'ils appartiennent à l'Église ou à la ville ? Et s'ils appartiennent à l'Église, pourquoi nous demandons notre autorisation ?
Parce que toute démarche de classement implique l'autorisation. Le classement peut venir de la collectivité elle-même ou peut venir des services de l'État. Et dans ce cas-là, l'État se doit de demander l'autorisation aux propriétaires. En l'occurrence, la ville. C'était le cas, par exemple, pour les monuments, je pense que pour le château Perrier ou pour l'hôtel de ville, ce n'était pas forcément des demandes de la ville, c'était des demandes des services de l'État qui ont recueilli notre accord. Donc là, c'est pareil s'agissant d'éléments mobiliers. Ce sont des éléments là qui nous appartiennent.
Ça appartient à la ville.
Tout à fait.
Appartient à la ville, ils sont inscrits à l'inventaire.
Pas nécessairement.
On devrait, hein.
Il y a une... Ah, c'est... vous parlez de... Non, vous ne parlez pas du même inventaire.
À l'inventaire des possessions de la ville.
Ah non, je pensais que vous parliez de l'inventaire des monuments historiques.
Non, non, à l'inventaire de la ville. Vous saviez,
là... Vous réactivez un vieux débat...
Qui... Un vieux débat, oui, que vous n'inscrivez pas tout à l'inventaire. Donc, ce n'est pas inscrit à l'inventaire.
Ils le sont peut-être, oui. Je suis incapable de vous le dire, franchement.
Combien de s'y voir?
Pas d'autres questions? Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Christian de Mongin.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, dans le cadre des conventions entre Épernay Spectacle et le Salmanazar, pour la production de quelques spectacles, je vous propose d'accorder la subvention pour le spectacle Semyonniki Express qui aura lieu le samedi 7 avril à 20h30.
Alors, s'il reste des places, je vous invite à y être parce que c'est un spectacle tout à fait exceptionnel. C'est complet, malheureusement. C'est une troupe qui est connue dans le monde entier.
C'est monsieur le directeur du théâtre qui vous a dit ça. Ben, rappelez-le lui.
Pourquoi il devait vous inviter ? Ben, il faut qu'il tienne ses engagements. Mais c'est un spectacle tout à fait exceptionnel, donné par une troupe qui est connue dans le monde entier. C'est un spectacle qui peut passer dans tous les pays du monde puisque ce sont des mimes. Et donc, il n'y a pas de texte, mais ils sont extrêmement drôles et incroyablement talentueux. À chaque fois qu'ils sont venus à Épernay, ils ont eu un succès public debout. Enfin, c'est assez exceptionnel. Avis contraire sur ce rapport? Oui, monsieur Durand-Soy, pardon. J'ai fait...
Oui, c'est dommage, l'extrême gauche est partie, dont un des deux membres se targuait à la télévision hier soir que le Front National, parti fasciste, a bien précisé, pour nous côtoyer tous les jours, était systématiquement contre la culture à Épernay. Dommage, vous lui ferez passer le message, monsieur Angers, si vous êtes toujours en bon terme avec. On votera pour.
Merci. Merci. Pas d'autres questions? Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Rapport 4E, Christian de Mongin, ça concerne la programmation culturelle et la préfiguration du contrat territoire lecture.
Dans le cadre de cette préfiguration, les médiathèques ont une action fournie en programmation culturelle. C'est pourquoi je vous invite à voter la subvention qui est proposée de 17 000 euros, sachant que celle-ci est subventionnable par l'État à hauteur de 50%. Il s'agit donc de demander à l'État de subventionner cette subvention.
Donc il est encore trop tôt pour les remercier, mais en tout cas...
Le bibliobus pouvait être financé.
On peut au moins faire la
demande. Non,
mais c'est beaucoup plus que 17 400 euros. Oh. des questions? Pas de questions, avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4F. Rémi Grand.
Merci, monsieur le maire. Je vous propose d'approuver le projet de création et d'exposition d'une bande dessinée autour de la présence italienne durant la Grande Guerre et d'autoriser le maire à solliciter les subventions mobilisables. Pour information, la bande dessinée est réalisée par Julien Athanase, un jeune de 21 ans, qui est en deuxième année à l'école d'art et graphique à Chambéry. Il a participé au concours de la Résistance en 2009 et a obtenu un prix spécial sur la demande de Mme Yvette Lindy.
Merci. Je rappelle également que l'état-major italien pendant la Première Guerre mondiale était basé à Épernay, cantonné à Épernay, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il est prévu avec le département, dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, qu'un certain nombre de manifestations aient lieu en lien avec le mémorial de Dormans, parce que les troupes italiennes étaient plutôt dans le secteur de Dormans et l'état-major était basé à Épernay. Donc ceci explique cela. Des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4G, organisation d'une exposition en préfiguration du label Pays d'art et d'histoire. Christian de Mongin.
Comme indiqué dans le titre, il s'agit donc, dans le cadre de la préfiguration au label Pays d'art et d'histoire, de montrer que des actions se mettent déjà en place. Et il s'agit en l'occurrence d'une exposition à partir de cartes postales qui se tiendra en septembre. Et je vous propose, je vous demande d'autoriser la subvention de 2000 euros, dont 50% sont subventionnables.
Merci. Des questions ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Christian Demongin, toujours.
Alors, dans le projet musée, dont on rappelait tout à l'heure l'importance, il convient, pour avancer, de créer un poste d'assistant de conservation du patrimoine. En effet, récoler et classer 130 000 objets, cela demande énormément de travail et donc de personnel. Ce poste d'assistant représente une somme de 24 000 euros inscrit au budget primitif 2015. Et là encore, nous pourrons obtenir une subvention de 50% de la part de l'État. Je vous invite donc à voter la délibération telle que proposée.
C'est la démonstration que l'État a manifesté un intérêt appuyé à ce projet, ce qui ne veut pas dire qu'on ait aujourd'hui tous les financements attestés par l'État, mais il est clair que les services de la Direction des musées de France souhaitent voir aboutir ce projet, le soutient, la labelliser en qualité de musée régional d'archéologie et du vin de Champagne, et c'est pour nous évidemment un formidable encouragement. Pour le reste, nous travaillons également très efficacement avec les services de la région. Alors, il y aura certainement un peu de changement puisque la région actuelle est appelée à se fondre dans un ensemble plus grand, mais le soutien de la région et de l'État le soutien qu'on demandera également au conseil départemental, je l'espère, nous permettra d'aboutir dans les délais prévus. En tout cas, on s'y emploie avec force. Et c'est vrai que, comme l'a dit Christian à l'instant, il faut maintenant que l'équipe du musée s'étoffe pour pouvoir anticiper à la fois le récollement, le recensement, le reconditionnement des différents objets qui sont appelés à être présentés dans ce futur musée. Donc vous voyez là la première création de poste. Il y en aura d'autres qui vont suivre. Et il va de soi qu'un musée comme celui que nous ambitionnons de créer à Épernay ne peut pas fonctionner s'il ne dispose pas d'une équipe technique, d'une équipe aux compétences historiques et scientifiques affirmées, et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons ce recrutement. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons toujours Christian Demongin.
Et toujours le musée. À l'intérieur du musée des objets, vous avez entendu parler de la défense de mammouth. Et il se trouve que la défense est beaucoup plus difficile à réparer que cela ne se présentait au départ. Et le montant de la restauration complémentaire est de 4 200 euros. Mais là aussi, l'État subventionne à hauteur de 2 450 euros. Je vous demande donc d'autoriser l'avenant relatif aux travaux supplémentaires pour la restauration de cette défense de mammouth.
Comme vous pouvez le constater, il y en a qui dégraissent le mammouth. Nous, on conforte le mammouth. Et donc, on s'investit pour préserver ces œuvres d'art importantes.
Monsieur Lefebvre. Monsieur l'adjoint à culture, donc concernant la restauration, je voudrais vous poser une question. Qu'en est-il de la restauration du tableau du martyr de Saint-Christophe, budgété en 2010 au compte 2161 pour 51 000 euros? Où on en est?
Eh bien, je ne sais pas.
Elle est terminée, la restauration? Elle est... Il va être remis en dépôt à Chalon, mais l'œuvre est restaurée pour l'instant. C'est, le tableau est revenu. Donc,
On ne peut pas parler encore de
ça. Hein? Ouais. De par sa taille, d'abord, aujourd'hui, il n'y en a pas de musée. Il faut qu'il soit exposé, donc pour l'instant, il sera exposé à Chalon. À titre provisoire, évidemment. On vous fera passer peut-être une photo. Ce serait peut-être intéressant de faire passer une photo de la restauration, de l'œuvre restaurée. On fera un bus pour aller à Chalon, sinon. Pardon ? Je pense, oui.
Nous le souhaitons. Nous le souhaitons grandement.
Avis contraire, abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4J. Christian Demongin.
Parmi les actions de conservation des fonds anciens, vous le savez, il y a la numérisation, la restauration, le traitement de tous ces fonds anciens de la médiathèque et également de ceux des archives. Alors, pour les journaux, pour les fonds anciens, les livres, les manuscrits, cela représente une subvention de 6 600 €, et pour les traitements plus traditionnels, enfin la numérisation représente 6 600 €, et les traitements plus traditionnels, les dépoussiérages, les conditionnements, etc., 10 350, ce qui représente donc une subvention de 16 950, subventionnable à 50% par l'État, cela pour la médiathèque, et pour les archives, 5 000 € pour la numérisation et l'entretien et la restauration des fonds anciens, 5 000 € subventionnables à 50% par la DRAC. Je vous propose donc, dans ce cadre des programmes de numérisation, d'approuver ces opérations et d'autoriser le maire à solliciter les diverses subventions mobilisables.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons toujours avec Christian Demongin. C'est la soirée Christian Demongin. Rapport 4K.
Pas tout à fait. Merci. Il s'agit cette fois d'une exposition de l'artiste Émilie Vaste. Émilie Vaste, qui est une jeune artiste sparnassienne vivant à Reims et qui a déjà produit énormément d'albums qui ont beaucoup de succès, en particulier au Japon, parce que les dessins qu'elle présente de ce type sont souvent proches de la figuration asiatique. L'exposition portera sur des oiseaux, car c'est un thème qu'elle traite souvent, et elle est organisée conjointement par Cormontreuil, Tinqueux, Lens et Épernay, sous le chapeau, si je puis dire, de Cormontreuil, qui porte le projet. Il convient donc de réaliser une convention entre les quatre communes organisatrices, et cette convention porte sur un budget de 5 252 €, dont 24% pour Épernay. Je vous propose donc d'adopter cette délibération telle que vous êtes présentée.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Désaffectation des ouvrages désherbés des médiathèques et règlement de vente. J'ai personnellement appris le terme de désherbage des collections, mais je vais laisser peut-être à Christian le soin de nous expliquer.
Il est vrai que désherber est un terme qui peut faire rêver un peu. Les livres ne seront pas jetés dans les prairies. Mais bon, lorsque les documents sont en mauvais état, lorsqu'on ne peut plus s'en servir, lorsqu'ils sont parfois en nombre trop important par rapport aux besoins, il faut s'en débarrasser. Voilà ce qu'est le désherbage. Nous vous proposons donc de procéder à des braderies, des sortes de braderies qui permettraient de vendre ces ouvrages superfétatoires ou devenus tels. Et nous vous proposons de les vendre à taux unique de 1 €. 1 € par document. Et cela pourrait être aussi proposé par série. Et il est bien évident aussi que ça ne serait pas revendable ensuite. Il y aurait des processus qui permettent de les identifier et d'interdire leur revente. Voilà, donc je vous propose...
Est-ce qu'on a une idée du nombre de livres que ça représente chaque année ? C'est des opérations qu'on fait chaque année ou qu'on fait une fois de temps en temps ?
On pourrait même le faire plusieurs fois, deux fois par exemple dans l'année, sur le nombre total de... Non, c'est par centaines, mais je ne saurais pas dire.
Donc, avis aux amateurs.
Non, il n'y aurait pas de puce dans les livres, mais il y a des cachets. De toute façon, si quelqu'un veut vraiment le revendre, comme le ferait quelqu'un qui volerait, si c'était possible, un livre dans une médiathèque, on enlève les cachets, on enlève les marques. Bon, on ne pourra toujours pas, mais on peut espérer que cela ne se produira pas trop fréquemment. Voilà, donc je vous propose d'autoriser l'organisation de ces braderies et d'approuver le règlement de vente qui est joint à la délibération.
Merci.
Oui, 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 il y aura des dates proposées. Et en réalité, cela pourrait coïncider, par exemple, avec des fêtes de quartier, des demandes de choses comme
ça. Oui, la braderie de la Chaudruelle, par exemple, on pourrait à cette occasion-là exposer des livres à vendre, de façon à ce que les gens qui sont intéressés par ces livres puissent les acheter. C'est le meilleur moyen d'avoir déjà du monde à cette brocante, parce que je ne suis pas persuadé que si on organise une brocante autour des seuls livres de la médiathèque, on attire la foule, alors que si on s'inscrit dans le cadre d'une démarche d'une brocante, ça peut intéresser des collectionneurs d'acheter, pourquoi pas, des collections complètes qui ne sont plus forcément en état d'être exposées à la médiathèque, mais qui peuvent présenter un intérêt.
Puis il y aura éventuellement des bandes dessinées, il y aura des CD, il y aura tout ce qui est en trop ou dont il faut se débarrasser.
Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous passons au rapport suivant. Joachim Verdier, ça concerne les deux conventions suivantes, concernent EDF et GDF, ERDF et GDF.
Merci Monsieur le maire. Donc mes chers collègues, suite aux travaux ERDF sur le réseau haute tension sur le quai de la Marne, je vous propose d'approuver la convention portant servitude de passage sur ce réseau annexée au rapport qui est en votre possession. Il s'agit simplement d'une régularisation administrative.
Merci. On peut peut-être présenter la 5B avec.
Oui. Alors, considérant le projet de modernisation GRDF, cette fois-ci, visant à mettre en place un système de comptage automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz des consommateurs particuliers et professionnels sur 3 sites différents. Alors, vous les avez dans le rapport. Il s'agit d'installer ces petites antennes sur l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, sur l'église Notre-Dame et au niveau des services techniques rue des Gencelins. Je vous invite donc à autoriser Monsieur le maire à signer la convention qui est en votre possession.
Merci. Y a-t-il des questions sur ces deux rapports? Pas de questions. Avis contraire, abstention. Les deux rapports sont adoptés et nous passons au rapport
sur l'effacement. Projet d'effacement.
5C.
Oui. Projet d'effacement des réseaux 2015, comme chaque année. Nous vous proposons donc, dans le cadre de la réfection des chaussées en 2015, à approuver le projet d'effacement pour les réseaux aériens électriques et de télécommunications sur l'allée d'Artois, la rue René-Lemaire, la rue de Bourgogne, la rue des Malbouches, la rue Dom-Pérignon dans sa section avenue Foch, rue des Petits Prés.
Et je précise que la rue de Bourgogne ne prend pas d'ess. Des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 5D, Anne-Marie Legras.
Chers collègues, dans le cadre de sa politique foncière, la collectivité est amenée d'une part à acquérir les parcelles et immeubles qui sont nécessaires à la réalisation de ses missions et projets, et d'autre part à céder ceux dont elle n'a plus l'utilité. C'est ainsi que je vous propose les acquisitions suivantes. Alors, la délibération 5D au consoeur Heurtevin pour la somme de 35 910 euros, la parcelle BN 143 dans le cadre du même projet de lotissement, en l'occurrence le Platet. La délibération 5E au consoeur Brisson pour la somme de 120 000 euros, les parcelles BN 124 et 219 situées chemin du Platet permettant de mener à bien le projet de lotissement. La délibération 5F à la SA Pluriale Novilia pour l'euro symbolique des parcelles en nature de trottoir et donc destinées à l'usage du public situées rue Francis Poulenc et Montjaillard. Ces emprises doivent simultanément être classées dans le domaine public. La délibération 5G au groupe Lidl pour la somme de 832 205,05 €, un ensemble immobilier, 57 rue Édouard Vaillant, afin d'y implanter le futur centre de conservation des collections du musée. Le surplus d'assiettes foncières devrait permettre de créer éventuellement quelques parcelles à bâtir. Je vous propose également les cessions suivantes. Alors, en ce qui concerne la délibération 5H à Monsieur et Madame Noël, pour la somme de 121 550 euros, deux parcelles d'une superficie totale de 715 m² située au lieu-dit Les Futis. La 5I à M. Tunk, pour la somme de 48 000 euros, deux parcelles pour une superficie totale de 722 mètres carrés, dont seule une partie est constructible, celle en jardin étant grevée d'une servitude perpétuelle permettant l'accès au réseau situé sous le terrain. Préalablement à la cession, il convient de prononcer la désaffectation et le déclassement de ces terrains. La 5J à M. et Mme Dallery, au prix de 459 600 euros net vendeur, une superficie de 2692 mètres carrés, issue des terrains entourant la propriété communale de Notre-Dame de Bellecombe. Cette cession ne gêne en rien les activités du chalet et permettront de financer les indispensables travaux d'aménagement. Enfin, dans le cadre du projet porté par le Foyer Rémois, situé entre l'avenue Foch et le parc Roger Menu, il convient de procéder à des échanges fonciers. Une cession par la ville de 1304 mètres carrés environ pour 136 920 euros, sur lesquels existent des constructions dont la démolition sera supportée par le Foyer Rémois. Cette emprise servant de parking public, il convient au préalable de prononcer leur désaffectation et déclassement. Une acquisition par la ville de 68 mètres carrés au prix de 132 euros le mètre carré, à classer dans le domaine public. Les modalités de ces différentes cessions et acquisitions sont détaillées dans les rapports en votre possession. Il convient en outre d'autoriser le maire ou son représentant à signer les actes nécessaires à la réalisation de ces opérations. Si vous avez des questions.
Merci Anne-Marie. Alors il y a effectivement plusieurs projets. Je voudrais peut-être revenir sur certains d'entre eux qui sont significatifs. Bon, il y a trois terrains achetés sur le secteur du Platé où il est prévu un lotissement. La ville a déjà un certain nombre de terrains autour. L'objectif, c'est maintenant de refaire le chemin du Platé lui-même, de l'élargir pour pouvoir céder ces parcelles de façon à ce que des personnes puissent les acheter et construire. Pas nécessairement. Je veux dire, pour l'instant, on est en train, depuis un certain nombre d'années, de récupérer des terrains pour les viabiliser, puisqu'ils ne sont pas viabilisés. Ils bordent le chemin du Platé, mais le chemin du Platé lui-même est dans un triste état, et il est important pour nous qu'on puisse acheter la totalité des propriétés pour refaire le chemin du Platé, puis ensuite y apporter les réseaux d'eau d'assainissement nécessaires et urbaniser cette zone qui a une vocation résidentielle. Pardon ? C'est trop tôt pour le dire pour l'instant, mais peut-être une douzaine, une quinzaine. Enfin, ça dépendra de la taille des parcelles qui seront découpées. Pour l'instant, on n'en est pas encore au stade du découpage des parcelles. On a ensuite, sur le Mont Jaillard, on a effectivement des acquisitions, mais pour des toutes petites parcelles, c'est en fait des ajustements le long des différents trottoirs. Je voudrais surtout attirer votre... Comment ? Non, c'est surtout parce que c'est des régularisations, hein, c'est des régularisations qui interviennent régulièrement. Je voudrais surtout insister, si vous me permettez de terminer, Monsieur Lefebvre, je voudrais surtout insister sur l'acquisition rue Édouard Vaillant, qui concerne donc le futur centre de conservation des œuvres du musée, des collections du musée, puisque il va nous falloir vider intégralement le musée, puis il va nous falloir nous doter à la demande de l'État d'un centre de conservation assez perfectionné sur le plan de la technologie de conservation, des techniques de conservation, avec des températures maîtrisées, une hygrométrie maîtrisée pour ces œuvres. Et il se trouve qu'il y a une opportunité, c'est que cet ancien supermarché Lidl était à vendre, qu'il, par ses dimensions, correspond assez bien à l'espace dont nous avons besoin. Évidemment, il faut... transformer ce bâtiment intérieurement pour le doter de toutes les qualités qu'il n'a pas aujourd'hui qui plus est, quelques espaces alentours pourraient être cédés. Je pense notamment à ceux qui se situent le long de la rue Édouard-Vaillant, ce qui pourrait du coup amortir en partie le coût d'acquisition et de transformation de ce bâtiment. On y reviendra évidemment abondamment puisque après l'acquisition, on aura à engager dans le courant de l'année prochaine un certain nombre de travaux pour le transformer en centre de conservation.
Les études qui ont été faites au niveau sécurisation et
sécurité, ça va quand même être un lieu
assez sensible.
Votre micro.
Pardon. Ça va quand même être un lieu assez sensible, qui est un petit peu à l'écart de la ville, en sortie de ville.
Donc, est-ce qu'il y a des études réelles, des devis, des oui, choses qui ont été faites pour sécuriser les lieux ?
Il bénéficiera évidemment des dispositifs de surveillance, de dispositifs de sécurité pour que les œuvres soient à l'abri. L'intérêt pour nous, c'est que c'est un bâtiment qui est complètement clos, qui n'a pas de fenêtres, qui est parfaitement sécurisable et sur lesquels il va falloir, au niveau des réseaux secs, réseaux humides, au niveau des contrôles, non seulement contrôle d'accès, mais contrôle de l'air, etc., travailler. Mais c'est un bâtiment qui nous évite de construire un bâtiment neuf, nous évite d'avoir à trouver un bâtiment pour mettre un bâtiment de 1000 mètres carrés, et il présente de ce point de vue un intérêt évident.
Mais au niveau du coût, justement, de ce que vous expliquez, est-ce qu'on a des chiffres ?
Alors, les devis sont en cours, puisque ça fera l'objet d'un marché, hein, puisque c'est un projet d'un montant important, qui n'est pas, je le précise, appelé à ne fonctionner que pour la phase de transfert du musée, mais même après qu'il sera ouvert, c'est là que seront entreposées les œuvres qui ne seront pas exposées au musée, puisqu'au musée, on aura à la fois des collections permanentes et des collections thématiques qui changeront régulièrement, et dès que des œuvres seront retirées du musée, ils viendront être entreposés dans des conditions très particulières.
Justement, c'est pour ça que j'insistais sur la sécurisation des lieux. Donc, pour moi, d'où un coût peut-être important à prévoir.
Ah oui, tout à fait.
Oui, mais plus tard, cela servira aussi de lieu de recherche pour les chercheurs, puisque c'est un musée dont les collections sont à vocation régionale. En ce qui concerne la sécurisation, il est bien évident que la société Clay-Millet International et ses associés qui sont chargés de la programmation ont intégré cette donnée dans leur devis.
Dès qu'on aura le rendu de cette étude, on vous présentera les caractéristiques qui sont prévues pour ce bâtiment, mais ce bâtiment sera évidemment les choix qui seront faits quant à son aménagement seront faits en lien direct avec la direction des musées de France. Parce qu'évidemment, ils ont leur mot à dire sur la nature des équipements qui sont prévus à l'intérieur de ce bâtiment. Oui.
Juste comme ça, mais j'imagine que plus on est discret sur la localisation de ce bâtiment, mieux c'est pour la sécurisation de ce bâtiment. On n'a pas forcément
à diminuer. Oui, il n'y aura peut-être pas une enseigne clignotante indiquant que c'est un centre de conservation.
Mais nous, dans la communication aussi.
Mais bon, c'est un bâtiment qui est appelé un bâtiment public, qui sera sécurisé comme des bâtiments publics le sont, et qui, évidemment, disposera non seulement des alarmes, mais des systèmes anti-intrusion efficaces pour que ce bâtiment puisse fonctionner comme tout centre de conservation de musée. Hein. Il y en a un peu partout en France. Ce n'est pas des bâtiments extraordinaires. Hein. Ils sont relativement discrets en général, et ils fonctionnent avec des dispositifs de sécurité très efficaces. Je poursuis. L'autre terrain sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est effectivement, il y a quelques terrains à bâtir qui sont cédés, c'est la cession du terrain constructible situé à côté du chalet de Notre-Dame de Bellecombe en Savoie. Quand la MJC et la FRMJC a cédé à l'euro symbolique ce chalet et ses terrains à la ville, nous avions identifié des terrains qui jouxtaient le chalet en question. Sur la parcelle, le chalet, c'est le chalet qui se situe sur la parcelle 606, sur le plan que vous avez à côté. La parcelle 1701, et c'était également un petit chalet de complément. L'objectif, nous avons toujours pris cet engagement, c'est que si nous pouvions céder les terrains à bâtir qui se situent à côté, c'est de le faire, d'une part, et d'affecter à l'entretien du chalet et à sa modernisation l'intégralité du produit de la vente, puisqu'il ne s'agit pas de faire un bénéfice sur ce chalet ni même de le vendre, mais au contraire de lui redonner une nouvelle jeunesse. Ce chalet, il a besoin d'être mis aux normes dans un certain nombre de domaines, il a besoin d'être transformé notamment pour son accessibilité aux personnes handicapées, des travaux de modernisation et de confort sont également nécessaires, et l'engagement que nous avons toujours pris à l'égard de la FRMJC puis à l'égard de l'association qui gère le chalet de Bellecombe, c'est de faire en sorte que si recette exceptionnelle il y avait, recette liée à la vente de terrain, l'intégralité du produit de ces recettes serait affectée au chalet en une ou plusieurs fois. On ne va pas faire les travaux pour le plaisir de faire les travaux, mais ça permettra de permettre à de nombreuses familles, je le souhaite en tout cas, de continuer ou de retourner à l'Arcanière, puisque c'est un lieu chargé d'histoire pour tous les Sparnassiens. Voilà donc quelques explications sur ces rapports. Est-ce que vous avez des questions ?
Oui. En ce qui concerne le 5L,
oui.
La ville vend au foyer rémois ou à l'effort rémois ? C'est deux organismes différents.
Oui.
L'effort rémois est bien dans pluriel.
Non. L'effort rémois. Attendez, oui, l'effort rémois, c'est.
Donc on vend à pluriel. Et dans le titre, vous marquez au foyer rémois.
Ah non, il y a une erreur, c'est le foyer rémois, hein, c'est pas.
Non, mais l'effort rémois, c'est bien pluriel. Oui, non, mais là,
oui, non, mais le rapport
là
pas
dans
bon,
la délibération, non. Vous marquez l'effort rémois.
Non, mais le,
voilà.
C'est bien.
Et dans le titre, vous marquez.
C'est le titre qui est bon, donc il faut faire rectifier le rapport. C'est toujours.
Vous voyez que l'opposition, ça sert à quelque chose.
Mais je n'ai jamais douté, monsieur Lefebvre.
Bon.
Non, c'est bien le foyer rémois sur tout le rapport,
oui.
C'est pas l'effort rémois.
Ouais. Et donc, pluriel, c'est toit champenois et effort rémois.
Oui. Voilà. Donc là, c'est pas pluriel, on
donc,
est d'accord.
J'ai appris ma leçon. Hein.
Là, c'est pas pluriel. Là, c'est les,
oui,
le foyer rémois.
Bon, en ce qui concerne là, il y a une diminution des places de parking dans cette vente. Combien de places de parking en moins, vous le savez?
À mon sens, aucune. Pour la simple et bonne raison que c'est la bande qui est enherbée et c'est pas le parking du tout.
Oui.
Alors, il est possible qu'à la marge, il y ait quelques places de stationnement, mais on a beaucoup travaillé sur le projet à de multiples reprises.
Parce que c'est marqué parking, là.
Oui, oui, j'ai vu ça, mais je suis un peu surpris parce que pour moi.
Et puis, troisième question. On vend à 105 mètres carrés et à côté, on achète à 132 mètres carrés hein, pour faire du parking. Là.
Oui, mais c'est les estimations des domaines. Hein. C'est-à-dire que là-dessus, on est bien obligé. Enfin, ce n'est pas nous qui faisons les estimations, vous le savez, monsieur Lefebvre. On est bien obligé de tenir compte de ces éléments. Et la localisation n'est pas la même non plus. Hein. Monsieur Angers.
Oui. En 5, 83 euros le mètre carré, et qu'on revend 60 euros le mètre carré à
Pluriel
dans la 5
carré. Oui, c'est pas le même quartier. Hein. Oui.
Alors, les acquisitions se font de toute façon au prix des domaines, hein, et on a des références importantes en la matière, puisque nous avons déjà acheté par le passé de nombreux terrains dans le secteur des platés. Donc je pense qu'on est au prix des domaines. Et lequel, vous dites, l'autre?
Mais dans la OC, c'est 90 euros l'hectare.
Ouais.
C'est 900
oui, c'est vrai qu'on est en plus en zone
OC. L'hectare. C'est les sources, on vend à 60 euros.
Oui, d'abord, on n'est pas en appellation, alors que de l'autre côté, on est en appellation. Non, on n'est pas à cet endroit-là en appellation. On est beaucoup plus haut en appellation. On est au-delà du chemin. Là, on borde le chemin des côtes et on n'est pas en appellation. C'est bien plus haut qu'on l'est. Et puis, deuxièmement, on vend des terrains qui ne sont pas non plus en bordure de terrain, puisqu'on conserve la bande qui se situe le long du chemin. Donc, on vend un terrain qui est au deuxième plan, si vous voulez. Le projet du toit champenois que vous avez. Je pense qu'on l'a sur l'un des plans.
Et donc, j'ai posé en commission, il n'y a pas eu de réponse, mais concernant les.
On vend un terrain qui est largement en retrait par rapport au domaine public, alors que de l'autre côté, on vendait tout à l'heure des terrains qui sont sur le domaine public.
Concernant les autres terrains, avenue Foch, qui sont constructibles.
Oui.
Est-ce qu'il y a des négociations actuelles avec les privés?
Vous parlez de quel terrain, monsieur?
Derrière le COMEP, les terrains qui sont...
Non, ces terrains appartiennent à la ville pour l'instant. Oui. Ils étaient occupés par les établissements flamands. Non, il n'y a pas de négociation avec des privés pour la simple et bonne raison que c'est des terrains dont on peut avoir besoin potentiellement sur l'arrière du Palais des Fêtes pour des besoins de logistique. On a d'ailleurs là une base pour le service logistique du Palais des Fêtes et de toutes les manifestations. Ils y mettent leurs camions, leurs équipements. Donc, il n'est pas envisagé pour le moment, en tout cas, de vendre ces terrains. Donc là, on est bien sur la partie située à l'angle de la rue du Comte Lamberti et qui est grosso modo entre le parking du COMEP, du Hall des Sports Pierre Gaspard et l'avenue Foch. Il y avait des maisons, il y a toujours des maisons, dont certaines d'entre elles sont murées, elles sont appelées à être démolies. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces cessions ou ces acquisitions? Est-ce qu'on peut les voter tout ensemble ou est-ce que vous souhaitez avoir des votes séparés? Pas de demande de vote séparé, donc on met aux voix les rapports 5D à 5L. Avis contraire, abstention, les rapports sont adoptés. Nous en arrivons au rapport 5M. Jonathan Rodriguez.
Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Afin de confirmer sa volonté et l'engagement de la ville d'Épernay, d'une part dans la coopération internationale avec notamment nos villes jumelles, mais aussi et surtout dans la transition énergétique, la ville d'Épernay souhaite adhérer à l'association Energy Cities, qui est basée à Besançon. Donc, c'est un objectif qu'on a à mettre en place dans le prochain agenda 21 pour faciliter les échanges techniques entre la ville d'Épernay et la ville jumelle d'Ettlingen, notamment pour assurer les traductions techniques en langue allemande et française, puisque même si on a notamment des gens d'Ettlingen qui parlent extrêmement bien le français, ils sont parfois limités sur la traduction technique, et si on parle de transition énergétique, si on parle d'éclairage public ou de cogénération, etc., on peut se trouver limité dans la compréhension des documents. Donc l'association Energy City se proposera de faire ce lien, puisqu'il y a dedans un parfait bilingue allemand-français. Et donc on adhère à cette association. Il y a aussi un échange de procédés. Bon, il y a tout un tas de choses derrière sur des bons procédés, sur des exemples, etc., sur des conseils, des recommandations en matière de réduction de la consommation énergétique. Donc cette adhésion est de 1 250 euros par an.
Merci. Des questions ? Pas de questions. Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 5N. L'agenda 21, Jonathan Rodriguez.
Oui, merci. Chers collègues, pour faire suite à ce rapport, je vous demanderai d'approuver les objectifs du prochain agenda 21. Alors, celui-ci sera présenté au public sparnassien le 16 avril prochain au Palais des Fêtes. Mais auparavant, après une présentation et un débat qu'on a eu en commission cadre de vie, avec Anne-Marie Legras, nous proposons d'ouvrir cette commission cadre de vie élargie aux membres du conseil municipal le 9 avril prochain à 17h pour que chacun d'entre vous soit vraiment informé de toutes les actions qu'il y aura mises en place dans cet agenda 21.
Donc vous recevrez une
convocation, oui.
Convocation.
Donc là, aujourd'hui, on vous proposera d'adopter les objectifs de cet agenda qui sont détaillés dans le rapport que vous avez en votre possession. On ne veut pas pour l'instant, évidemment, détailler les propositions puisqu'on attend un ou deux retours de partenaires puisque l'ensemble n'est pas porté par la ville d'Épernay, mais il y a aussi des partenaires extérieurs. Et puis, on voudra aussi réserver la primeur le 9 avril au conseil municipal et le 16 avril à l'ensemble de tous les sparnassiens pour cette présentation qui sera sous forme d'un forum où on pourra échanger facilement sur ces 21 premières actions.
Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? On y reviendra abondamment. Hein. Oui, monsieur Angers.
Oui, c'est très bien de nous inviter le 9 avril à la présentation de ces données concernant l'agenda 21, mais on aurait souhaité au moins autant de réactivité en ce qui concerne le pic de pollution qui a dû être relevé dans la petite cabine Atmo qui a été installée rempart Perrier. A priori, nous étions en situation d'alerte suite à la pollution aux particules fines, situation d'alerte qui aurait imposé, je dirais, une certaine réserve par rapport à des pratiques de ce type sportif. Pourquoi n'avons-nous pas eu d'informations dans ce domaine ?
Jonathan.
Oui, alors évidemment, on a bien vu, noté évidemment cette pique de pollution. D'ailleurs, ce n'est pas réservé au cas unique sparnassien, puisque c'était tout le nord-est de la France, voire tout le nord de la France qui était concerné par ce pique de pollution, qui évidemment est... lié à diverses zones de pollution, sources de pollution, sûrement automobiles, sûrement agricoles, sûrement industrielles, etc. Et donc, si vous avez bien regardé aussi les analyses, il y a aussi, à Reims, il y en a eu, mais aussi à Pourcy. en Pourcy. Vous connaissez peut-être aussi bien que moi Pourcy. Il y a 200 habitants à peine, donc ce n'est pas la pollution automobile. En tout cas, des Pourcytiers, si je crois qu'on les appelle comme ça, qui est nuisible pour cette atmosphère. Pour ce qui est de la formation, nous, on a adhéré à Atmo, hein, on subventionne cette association, donc il y a aussi autorité pour diffuser cette information auprès de l'ensemble de la population. Il y a une information qui est transmise, c'est comme ça, c'est un petit peu la préfecture qui le fait, aux écoles pour proposer des confinements ou en tout cas éviter l'activité sportive intense, etc. Ensuite, c'est une responsabilité de l'État de communiquer ou en tout cas de demander des contraintes pour éviter ces pics de pollution. Cela dit, malgré ces choses qui ne nous concernent pas directement, dans ce cadre de cet agenda 21, nous mettrons en place des mesures visant à réduire la pratique de, en tout cas, la pollution atmosphérique. On essaiera d'y parvenir. Et pour ce qui est de l'information, je pense qu'on va regarder comment on peut être peut-être plus réactif sur la communication auprès des habitants via peut-être le site internet pour que, et puis c'est pas que d'avertir, c'est aussi derrière de fournir quelques recommandations d'usage du véhicule, en tout cas de non-usage du véhicule plutôt pour ça.
Ce qu'on peut regretter dans cette affaire, c'est qu'on n'ait pas été spécialement prévenu en amont, parce que l'intérêt de ce genre de démarche, là en l'occurrence, c'était pas lié à une circulation automobile anormale, c'était lié à des conditions climatiques qui ont concentré sur effectivement un grand quart nord-est des pollutions. On n'a pas eu d'information directe ni particulière de ce point de vue, alors que, me semble-t-il, il faudrait qu'on ait, de par les organismes de surveillance, on doit être capable de prévoir ce genre de pollution. Je pense que les météorologues sont capables d'anticiper des phénomènes comme ceci. Ça tient à l'absence de vent, ça tient à des températures ou des pressions particulières. On s'en est rendu compte, nous, quand on en a entendu parler dans les médias le jour même, et il serait sans doute souhaitable qu'effectivement... Oui, non, mais on aurait dû normalement être prévu un ou deux jours avant, on aurait dû avoir un avis particulier.
Oui, mais c'est pas prévu.
Ce qui est souhaité...
Oui. Nous avons voté l'implantation de cette antenne. Regardez, je vous avais demandé à l'époque, faisons en sorte d'en faire bon usage en termes de communication, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Et là, je ne cherche pas effectivement des causes à effet. Hein. Effectivement, on a compris que c'était les conditions atmosphériques qui nous amenaient face à ce phénomène. Bon, effectivement, l'objectif, c'est quand même à partir du moment où on a une telle implantation sur notre territoire, c'est d'en faire un usage approprié.
Mais ce qui serait souhaitable, c'est qu'on ait effectivement des informations qui arrivent directement des sites internet ou de stations météo ou d'Atmo, par exemple, directement sur notre site internet, ce qui permettrait une information en direct, on va dire, des états de pollution, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est envisageable? J'en sais rien, mais c'est vrai que...
Non, mais si, je pense qu'on avait prévu d'écrire, en tout cas d'appeler Atmo ou d'écrire un courrier à Raymond Joannès pour que derrière, on ait... nous soyons nous-mêmes informés directement quand il y a ce genre de choses.
Voilà, parce que c'est bien de savoir qu'il y a eu une pollution, mais c'est encore mieux de savoir qu'il va y en avoir une, quoi. Pardon ? Je pense que sur le site d'Atmo, on doit avoir un certain nombre d'éléments. Mais c'est vrai qu'il serait souhaitable qu'il y ait un lien direct entre le site de la ville et le site d'Atmo, pour que les gens qui se préoccupent de ces questions puissent, en temps réel, avoir les informations. Mais c'est vrai que là,
j'allais dire que... Et surtout dans les écoles, que les élèves ne sortent pas.
Cette information a été pour l'essentiel traitée le jour même dans les médias, alors que normalement, on devrait avoir des systèmes d'alerte beaucoup plus efficaces qui, la veille ou l'avant-veille, demande instamment aux personnes de prendre leur disposition, et quand on l'a su, c'était pratiquement le jour même. Donc là, il y a, en termes d'information, non seulement des collectivités, mais de la population, il y a, je pense, des progrès à faire, et il serait intéressant de travailler avec eux là-dessus pour qu'on ait un système d'alerte. Par exemple, quand on a des... Enfin, je vais peut-être pas prendre cet exemple parce qu'il n'est pas toujours pertinent, mais quand on a des alertes pour des crues ou des orages ou des coups de vent qui nous font... Bon, on reçoit, les élus reçoivent, en tout cas moi je reçois, et les élus reçoivent des messages automatiques transmis par la préfecture. Là, on n'a eu aucun message téléphonique nous indiquant « Attention, votre ville, votre région va subir des zones de pollution, prévoyez que ». Et je pense que, de ce point de vue, il y a encore beaucoup de progrès à faire par rapport aux alertes orange qu'on a régulièrement et qui nous valent 8 ou 10 fois par an des coups de fil à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sur nos portables pour nous indiquer qu'il faut prendre des dispositions pour annuler les manifestations et autres, quoi.
Oui, puis pourquoi pas, si la fréquence de tels événements devait être plus nombreuse, prévoir des dispositions alternatives pour faire face à ce genre de situation.
Ben, je pense que la France n'est pas encore mûre pour ça, enfin, n'est pas encore prête, plus exactement, je pense qu'elle est mûre, mais que les dispositifs de prévention, d'alerte sont loin d'être au point. On n'a d'ailleurs parlé que des mesures prises en région parisienne, alors que, logiquement, il n'y avait pas que la région parisienne qui était touchée. On devrait appliquer, à mon sens, un certain nombre de mesures ailleurs qu'en région parisienne. Il y a sans doute un débat à ouvrir sur la question pour qu'effectivement, ce genre d'alerte, quand elles sont en mesure d'être prévenues, puissent bénéficier à tous et que des réseaux d'information, avec Internet, c'est quand même relativement facile aujourd'hui, de diffuser des listes d'envoi, de messages pour appeler les maisons de retraite, les écoles, mais également toute une série d'acteurs publics.
Parce que ce genre d'alerte pourrait avoir du sens également, ou tout du moins la réponse que l'on envisagerait à ce type d'alerte pourrait avoir également du sens à intégrer dans un agenda 21, puisque oui. C'est aussi matière à faire face au réchauffement climatique et aux perturbations atmosphériques qui en découlent.
Alors pour finir sur l'agenda 21, pour continuer si vous permettez, c'est vrai que cette nouvelle version fera qu'on pourra être plus réactif dans nos mesures de développement durable. Je m'explique parce que, en fait, cet agenda 21, on aura 21 premières actions. Mais c'est un agenda qui va de 2015 à 2019, donc 4 ans. Mais à chaque fois, l'une d'entre elles, de ces 21 actions, à chaque fois que l'une d'entre elles sera réalisée, elle sortira évidemment de la liste et une nouvelle rentrera pour la remplacer et elle sera toujours active. Donc on aura toujours 21 actions en cours de réalisation. Ça veut dire que derrière, il y a un vivier qui existe, mais qui pourra être alimenté en fonction des nouveautés technologiques, en fonction des nouveaux besoins, etc. Donc il y aura toujours quelque chose de vivant. Donc on a fait des concertations, de nombreuses concertations auprès des Sparnassiens. On a même fait une ici en conseil municipal. Demain, on pourra réintégrer des nouvelles propositions si on voit qu'il y a un besoin spécifique qui se crée et des nouvelles mesures à mettre en place.
Qu'il y a, à mon sens, il y a deux niveaux. Le premier, enrayer le réchauffement climatique. Moi, je crois que maintenant, c'est croire aux vieilles lunes que de penser cela. Et je crois qu'il y a un certain nombre de domaines où il faut maintenant s'adapter au réchauffement climatique. Et donc, ça dénote quand même d'un état d'esprit qui sera totalement différent.
Mais alors, notre, vous le verrez dans les actions qu'on vous proposera, mais enfin, vous l'avez vu dans les objectifs, de toute façon, il sera teinté, cet agenda 21. Il y aura diverses mesures. Il y a toujours 4 objectifs. L'attractivité territoriale, le cadre de vie, la citoyenneté, la cohésion sociale et aussi la ville d'Épernay exemplaire en la matière. Ça, c'est toujours les 4 objectifs. Mais on aura quand même teinté de protection de la biodiversité. On va être assez proactif là-dessus. Et aussi la transition énergétique. Alors, on l'entend sur tous les moyens. Il y a la consommation énergétique de l'automobile, mais il y a aussi surtout la consommation énergétique des logements, où là, on a peut-être plus de moyens d'action pour aller plus vite dans des logements qui soient moins énergivores sur notre territoire.
Bien, je voudrais... alors, est-ce qu'on peut voter ce rapport? Et puis, je voudrais revenir sur le rapport d'avant, parce qu'on a oublié...
Donc, pour ma part, je voulais dire à peu près la même chose que cela. La deuxième chose, c'est qu'on protège davantage le Cubri, qu'on travaille sur le Cubri. Et la troisième, qu'on montre l'exemple à la cantine scolaire des produits locaux et des produits bio.
Alors, c'est des choses qui nous importent aussi. Pour ce qui est du Cubri, on a une des premières actions, d'ailleurs, qui a été plébiscitée par les Sparnassiens, puisqu'on avait fait un questionnaire au mois de décembre. Et c'était une des actions qui avait retenu beaucoup l'attention des Sparnassiens, où on va commencer par faire un véritable état des lieux de tous les types de rejets, ou en tout cas des types de pollution qui puissent exister ou non, parce que, à vrai dire, on dit beaucoup de choses, mais on en sait peut-être très peu sur l'état sanitaire du Cubri. Donc on va regarder sur la ville d'Épernay, mais évidemment, le Cubri commence pas à la zone de Pierry et puis finit dans la Marne, pour le coup, qui est dans le territoire sparnassien. Mais en amont, évidemment, il faudra en lien avec, je vois pas Daniel Maire ici, mais le président du syndicat, mais aussi en lien avec la communauté de communes et les communes qui sont en amont de Scubry, travailler sur son amélioration sanitaire. Il y a forcément des types de rejets qui sont illégaux, on en a repéré, donc il faudra les supprimer assez rapidement. Ensuite, pour ce qui est, on peut réfléchir, et ça a été commencé à être pensé par certains spécialistes, d'avoir de filtrations naturelles. On a des zones naturelles dans Épernay ou en amont, où on pourrait imaginer par des roseaux, j'en sais rien quel type de plante, qui pourraient filtrer naturellement les rejets. Et on voit dans certains endroits où ça existe un meilleur état de la qualité de l'eau après cette zone naturelle qu'avant. Donc ça, c'est une chose qui est prioritaire. Et sur la cantine, on a aussi cette volonté d'avoir des repas bio, évidemment. Je trouve que c'est 20% la norme légale, donc on va s'y conformer. Et ensuite, il faudra qu'on ait un travail, et ça, c'est aussi une chose qui tient à cœur à l'équipe municipale, mais il faudra qu'on ait un lien actif avec la filière agricole champardonnaise pour que ils ont créé une plateforme de vente ou de plateforme agricole pour vendre leurs produits locaux. Ben, je pense que nous, derrière, on peut être en mesure, directement ou par des marchés ou par des conventionnements, de s'approvisionner auprès de l'agriculture champardonnaise, marnaise tout du moins, sur les produits qui sont dans les cantines. Je pense que la filière s'organise, parce que c'est ça. Ils ont besoin d'avoir derrière assez de demandes pour pouvoir s'adapter et dire, ben, nous, on est en mesure de vous offrir tant de légumes ou de produits, etc. Donc je crois que ça, on doit... est-ce qu'il y a d'ailleurs une volonté commune auprès des différents maires du coin ou des villes marnaises pour faire ça? Il y a aussi le département qui peut être aussi, au travers des collèges, un acteur. Mais je crois que là-dessus, la filière agricole s'organise. Et nous, on doit pouvoir répondre, je ne sais pas jusqu'à quel niveau de pourcentage on attribuera de produits agricoles locaux, mais on peut travailler là-dessus. Je crois que c'est indispensable. On parle d'économie locale, on parle de réduction des trajets pour livrer les légumes et les fruits. Donc il y a évidemment toute chose à faire en termes de développement durable.
Monsieur Angers.
Oui, dans les 16 objectifs...
Micro.
Je croyais que j'avais suffisamment de timbre pour rentrer directement dans la machine. Dans les 16 premiers objectifs, il y a une ligne qui est sympa, là. C'est favoriser les rencontres et les échanges entre les Sparnassiens. À l'aune de certains débats de ce conseil municipal ou de certains événements qui s'y sont produits, qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, je veux bien répondre encore là-dessus, mais si je vous les fais un par un, on va finir à avoir les 21 actions qui seront détaillées et le pétard sera un peu mouillé quand il sera sorti aux Sparnassiens le 16 avril. Non, je veux pas. Non, mais je pense que c'est important qu'on ait le 16 avril. Et je fais confiance à la presse là-dessus pour relayer l'événement ce jour-là. Mais c'est important qu'on ait...
Avant, on est d'accord.
Oui, il y aura une commission conseil municipal avant, bien entendu. Mais je voudrais que cette agenda soit vraiment livré.
On n'oublie pas, la petite patate sociale dans le développement.
C'est pas la patate sociale,
durable.
C'est un des quatre piliers.
Simplement, donc, ça doit se traduire aussi au fonctionnement de cette instance.
Jean-Paul Angers, je peux le dire facilement, c'est que cette action n'est pas du tout portée par la ville. C'est une action qui a été proposée par des Sparnassiens et qui sera, qui ont voulu profiter de l'agenda 21 pour avoir un espace de communication, un espace qui puisse apporter une certaine dimension. Et c'est des Sparnassiens qui cherchent, j'en dirai pas plus là-dessus, qui cherchent à jardiner local et à travailler avec leurs voisins pour qu'on puisse s'échanger ces bons procédés.
D'accord.
Ils en sauraient plus le 9 avril pour les conseils municipaux.
Bien. Sur ce rapport, est-ce qu'on peut l'adopter? Avis contraire, abstention, il est adopté. Je vous propose de revenir sur le rapport précédent parce que... il était prévu non seulement d'adhérer à Energy Cities, mais également de désigner un représentant, en l'occurrence, et vous était proposé de désigner Jonathan Rodriguez. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Alors, avis contraire, abstention, donc Jonathan, tu es bien désigné pour cet organisme. À l'unanimité, oui.
C'est bien.
Par les temps qui courent, c'est pas forcément courant.
Je ne sais pas si j'aurai un vote unanime dans les jours à venir comme ça non plus. Mais...
J'en arrive au rapport numéro 6, compte rendu, décision prise.
À toutes les réunions.
C'est fait ? Je viens de le faire à l'instant. C'est fait. Voté. On revient au rapport numéro 6. Compte rendu de décision prise par le maire par délégation du conseil municipal, article 2122-22. Chers collègues, avez-vous des explications à demander sur les décisions énumérées dans le rapport qui vous a été adressé? Monsieur Lefebvre, je vous vois déjà appuyer sur le bouton.
Oui, je me permets de vous dire qu'on a vendu ce soir pour 1 036 830 euros, donc qui rentrent dans la caisse, qu'on a des subventions qui sont rentrées ou qui vont rentrer pour 145 635 euros et qu'on a demandé des subventions à l'État ou à la DRAC pour 50 000 euros.
Ah, ça veut dire qu'on travaille bien.
Ouais, ça va rentrer l'argent. Donc il y a des moyens pour la piscine et pour
d'autres
choses. Écoutez,
si vous n'avez pas d'autres projets que celui-là, c'est bien triste. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le rapport en question? Le rapport numéro 6.
Oui, la 14.
Alors,
donc,
allez-y.
Donc ce sont des frais d'avocat. Je pensais que c'était l'organisme EPARECA qui prenait en compte ces dossiers, non? C'est la mairie?
Non, ça ce sont les négociations avec les commerçants. C'est l'ancien centre commercial, on ne parle pas de l'actuel. Hein. Tout ce qui concerne l'entrée des commerçants dans les nouveaux locaux, c'est bien une négociation entre les commerçants et les EPARECA.
Oui.
Mais en ce qui concerne la cession des murs commerciaux ou des fonds de commerce, c'est bien entre la ville et les commerçants.
Parce que parfois, certains faisaient la confusion entre les deux.
Pas nous.
Les intéressés. Hein.
Ouais. Monsieur Klein, vous aviez une question?
J'ai encore deux questions, mais je reviens
On va par alternance. Allez-y, M. Klein.
Page 5, l'espace Paul Bert mise à disposition de, pour le syndicat CFDT, deux bureaux et des salles, enfin pour le syndicat CGT, trois bureaux et des salles, et ce, moyennant la somme de 125 euros.
Oui, ce sont des espaces pour... c'est la maison des syndicats qui situe là-bas,
Mais entre la période de 2015 à 2027, alors les 125 euros, ils correspondent à quel...
Par an, hein. 125 euros par an. Oui.
Pas cher.
Oui, sinon ça ferait vraiment pas cher.
Mais c'est toujours pas cher.
C'est déjà pas cher. C'est déjà pas cher parce qu'on a toujours hébergé les syndicats dans des conditions minimes sur le plan financier, mais c'est quand même 125 euros par an. La précision est utile. Monsieur Lefebvre.
Oui, concernant la 23, là, donc vous avez passé convention avec le lycée Stéphane Essel pour le gymnase du parc Maigret. C'est une convention à titre gratuit.
Pierre.
Et c'est laquelle, là? Oui. Et donc on a une convention avec le gymnase, c'est-à-dire qu'on entretient le gymnase en échange de la mise à disposition.
Oui, il y a un échange de.
Ça dépend des établissements. Là, ça...
Et pour ma part, pour terminer le 24, vous pouvez un peu m'expliquer ça, exactement ce qui se passe là-bas. Entre la société Chrysalide et le site TAE. Le 24.
Nous vous avions répondu en commission générale et finances, c'est simplement la société qui a changé de nom, donc il y a une nouvelle convention.
Oui. A changé de nom. D'accord.
Pas d'autres questions?
Pas de faillite.
Alors, nous allons passer aux questions diverses. Avant les questions diverses, je voudrais vous informer du départ d'Éric Le Floch, directeur général des services, qui quitte la collectivité pour rejoindre une collectivité située plus au nord et plus près de la mer. Donc, il quittera ses fonctions le 1er juin prochain. Je voudrais le remercier pour le travail qu'il a accompli au service de la collectivité. Évidemment, un recrutement sera engagé pour que un nouveau directeur général des services arrive très certainement pas avant la rentrée de septembre prochain. Je voudrais donc donner la parole à Marc Lefebvre qui nous a posé plusieurs questions, l'une sur la piscine de Bernon, l'autre sur le pôle métropolitain et la troisième sur la cuisine centrale. On va répondre à chacune d'entre elles. Donner la première question, on répond et ainsi
de suite. Donc, je voudrais revenir sur votre décision de fermer la piscine de Bernon. Pourquoi n'avez-vous sensibilisé ni la commission animation et attractivité, ni le conseil municipal aux problèmes occasionnés par le fonctionnement de cette piscine depuis plusieurs années? Parce qu'on a entendu après, bon, mis à part le problème de météo de l'an dernier, on a entendu qu'il y avait des problèmes d'incivilité, des problèmes de vandalisme, des problèmes de dégradation, des problèmes de recrutement de personnel, etc. Nous n'étions pas au courant de cela et c'est un petit peu dommage. Et puis, à combien se chiffrait le montant des travaux urgents indispensables pour son éventuelle ouverture l'été prochain? Oui, donc le dossier plomb, vous l'avez, le constat, j'ai vu sur Internet, a eu lieu le 25 novembre, donc c'est il y a quelques mois. Les rapports de mission de repérage ont eu lieu 1er 2 décembre. Et puis l'information au Conseil. Le dossier de démolition de désamiantage a été envoyé le 22 janvier. Donc c'était déjà constitué, mûrement réfléchi, etc. Et nous avons été au courant, pour certains le 11 février, pour d'autres le 12 ou 13 février. Pourquoi ce décalage?
Alors déjà, s'agissant des études, je vous explique un petit peu comment fonctionne une collectivité comme la nôtre, à savoir que quand on doit faire des choix budgétaires au moment du vote du budget, on demande aux services d'étudier bien en amont les dossiers. D'ailleurs, chaque année, les services étudient des dossiers qui n'aboutissent pas au budget, ce qu'on essaie d'éviter de manière générale. Néanmoins, les diagnostics sur l'ensemble des bâtiments communaux appelés à connaître les travaux sont faits en amont, sont faits parfois plusieurs années consécutivement, selon les choix qui vont être opérés. Et les services techniques avaient eu instruction de faire à l'automne un certain nombre d'investigations sur la piscine de Bernon, puisque on savait depuis quelques années qu'elle accumulait un certain nombre de faiblesses. Pierre vous en dira un mot dans un instant. Et donc des études ont été menées assez en amont pour envisager toutes les hypothèses, d'autant plus qu'on savait que ce bâtiment était, si vous me permettez l'expression, truffé d'amiante, et qu'il fallait donc, quels que soient les travaux qu'on aurait pu entreprendre sur la piscine de Bernon, imaginez de démonter une grosse partie du bâtiment, voire des plages situées aux alentours de la piscine, pour faire des travaux. Donc il aurait fallu, en cas de construction nouvelle, il aurait fallu désamianter avant d'entreprendre une quelconque construction. Donc des études ont été menées en amont. Évidemment. Encore que je ne sais pas où se trouve exactement l'amiante, mais on peut imaginer que dans le... Oui, peu importe. Mais si vous voulez, c'est des constructions. C'est une construction qui date de l'année 74. Donc une époque où malheureusement l'utilisation de l'amiante était courante. Et dans beaucoup de bâtiments de cette époque, on retrouve de l'amiante. Donc il n'y avait rien de spectaculaire ou de vraiment nouveau à ce niveau-là. Et donc un certain nombre d'études ont été menées par les services techniques à l'automne dernier. Un certain nombre de rapports nous ont été communiqués courant janvier. Toutes les hypothèses avaient été envisagées de la réhabilitation de cette piscine, d'où les coûts que nous avons communiqués. Mais oui, courant janvier. Quand je dis que les documents nous sont remontés courant janvier, ce travail a été fait assez rapidement. L'objectif pour nous, c'était de prendre ou la décision d'engager des travaux de réhabilitation, en fait de démolition-reconstruction de cette piscine, puisque l'état général du bâtiment, les normes requises aujourd'hui pour ce genre de bâtiment, Pierre vous en dira un mot, impliquaient de fait une démolition-reconstruction. Une démolition pure et simple. Donc ces travaux ont été menés au cours de la fin de l'automne et au début de l'année, et la décision, quand elle a été prise, a été effectivement annoncée en premier aux habitants du quartier de Bernon lors d'une réunion du conseil de quartier, et aussitôt communiquée aux élus, qui ont reçu le lendemain matin une lettre de ma part leur informant de la décision qui avait été prise. Donc je vais laisser Pierre... Attendez. Monsieur Lefebvre, je vais laisser, mais si elle avait été début décembre, début janvier, comme vous le dites, je l'aurais annoncé début janvier, je ne vois pas pourquoi j'aurais attendu la campagne électorale pour le faire.
Des amiantages, l'appel d'offres pour la démolition, etc., a été envoyé aux entreprises le 22 janvier. Donc.
Oui, mais les dossiers ont donc bien été faits en janvier.
Début janvier,
oui, alors.
Avant le 22 janvier, puisque
bon. Peu importe, c'est pas une semaine qui change grand-chose, Monsieur Lefebvre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais laisser à Pierre expliquer les raisons techniques et la complexité de ce dossier sur le plan technique, et donc par là même les raisons qui ont poussé à cette décision. Pierre.
Oui, merci, Monsieur le Maire. Je vais essayer de compléter l'information que j'ai donnée lors de la dernière commission animation attractivité, où j'avais retracé le contexte général, où on avait évoqué les problèmes de recrutement, effectivement, les problèmes de sécurité, de fréquentation, de fonctionnement. Pour m'attacher un peu plus, sans trop entrer quand même dans les détails techniques, sur un certain nombre de problèmes que les normes, LES plus loin normes, et que les conditions de réglementation nous imposent, normes, je pense à la réglementation 2012, concernant en particulier l'hydraulicité. Alors, je ne vais pas être trop technique, mais il faut savoir que le système qui est préconisé est le principe d'hydraulicité inversée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je vous dis en deux mots en quoi ça consiste. Ça permet de récupérer les eaux de débordement en surface, via par exemple des goulettes. Les eaux évacuées transitent alors par un bac tampon où elles sont traitées, recyclées. Donc en hydraulicité inversée, l'évacuation se fait uniquement par la surface et l'eau arrive dans le bassin par des bouches situées au fond. Ça, c'est la norme. Actuellement, ce qui se passe, c'est que le système est complètement désuet, complètement inadapté, et il fonctionne exactement à l'inverse, c'est-à-dire que l'arrivée d'eau se produit en surface ou en faible profondeur, et l'évacuation se fait par le fond, ce qui fait, bon, en conséquence, que l'eau de surface n'est jamais évacuée et qu'il y a un film résiduel qui n'est pas éliminé. Donc les normes nous interdisent maintenant de conserver ce système classique et nous imposent un système d'hydraulicité inversée. Et c'est donc un premier point sur lequel il faudrait travailler.
Je pourrais préciser que les travaux identiques ont été faits à Buléo. Quand l'ancienne piscine du district est devenue Buléo, effectivement, on avait le même système avant, c'est-à-dire que l'aspiration se faisait par le fond. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les travaux, quand Buléo a été refait, la piscine est devenue dite à débordement, c'est-à-dire qu'effectivement, ça permet de capter les eaux de surface où se situe un certain nombre d'éléments potentiellement polluants. Et je veux dire, c'est pas étonnant que la piscine, le bassin de Bernon, ait eu la même, on va dire, technologie ou technique d'évacuation des
eaux. Alors, sachant qu'il reste
aussi, complètement inverser la piscine, c'est-à-dire que alors que d'habitude on aspire les saletés par le fond, maintenant on doit les aspirer par la surface. D'où la nécessité de tout transformer, de tout casser, puisque aujourd'hui, si vous allez à la piscine de Bernon, vous avez les bordures, les quais, je ne sais pas comment on les appelle, les plages qui entourent la piscine, et la piscine est en contrebas. Aujourd'hui, il faut que la piscine déborde sur l'extérieur, ce qui implique évidemment des travaux considérables, ce qui aurait sans aucun doute amené à démolir le bassin pour le reconstruire.
Sachant que tu l'as dit, il y a aussi un problème d'évacuation des eaux de ruissellement sur les plages.
Bien sûr.
Puisque là, il y a pas, le système n'est pas prévu. Alors qu'elles ne doivent pas retourner sur le bassin, bien entendu.
Monsieur le maire, pour l'appel d'offres pour la démolition.
C'était le 22 février, ce n'était pas le 22 janvier, monsieur.
22 janvier, hein. 22 janvier. Si, alors, si. Mais le document sur Internet est faux, alors. Ah, je ne vais pas le sortir.
Tu as interrogé aussi sur la nature des travaux et sur leur coût. Alors, la piscine construite en 1974, monsieur le maire l'a rappelé, n'est pas un quadragénaire en pleine forme et a donc besoin de plein de travaux, estimés par les services techniques à 450 000 euros répartis sur deux postes. Alors, le bassin, pour ce qui concerne le bassin, il conviendrait de refaire toute la maçonnerie qui est fissurée, ce qui entraîne donc d'importantes fuites, de refaire toute l'étanchéité, et de prendre en compte les travaux dont je viens de parler, l'hydraulicité inversée, plus la reprise aussi des plages. Ça, il y en a pour 180 000 euros. Alors, on nous a dit qu'on n'avait pas fait grand-chose depuis un certain nombre d'années sur le bassin. Il faut savoir que depuis 2000, on a changé le liner, qu'on l'a remplacé par une résine, qu'on a eu des travaux de chauffage, des travaux de chaufferie, pour un montant de 50 000 euros quand même, qui ont couru, bien sûr, par étapes, graduellement, mais il y a quand même eu 50 000 euros d'investis pour des travaux qui... Sachant que, quand je parlais du liner, faut savoir qu'il n'apprécie pas forcément de recevoir des parpaings, des cailloux, des chaises qui n'ont pas leur place normalement dans un fond de bassin et qui arrivent en revanche régulièrement. Concernant le bâtiment, donc là c'est un coût de 180 000 euros, je crois que je vous l'avais dit. Concernant le bâtiment et les conditions d'accessibilité, il y aura aussi des travaux très lourds à mettre en place. Réhabilitation du bâtiment, alors les carrelages, les sanitaires, les baies vitrées, les vestiaires, le poste d'accueil, rien n'est aux normes. D'accessibilité aussi à l'intérieur même de la structure, puisqu'il y a aussi des petites marches, et aussi donc n'a pas l'accessibilité convenable. Et ensuite, il faudra aussi reconsidérer le cheminement depuis l'avenue Beethoven jusqu'au bassin, avec, en plus, des places de parking obligatoires près de l'entrée. Donc là, on a un coût estimé de 270 000 euros, plus les 180 000 euros, on est à 450 000 euros, à mon avis, au bas mot. Donc, voilà. Je pense, Frédéric, est-ce qu'il y a des choses à compléter ou... Oui, le ratio au mètre carré sur le chiffre que je viens de vous annoncer, on serait environ à 2200 euros le mètre carré, s'agissant qu'il s'agit de bâtiments techniques. Oui, c'est pas de la...
Concernant le dossier de démolition envoyé aux entreprises, il a été envoyé mi-février, et les entreprises... L'appel d'offres devait être rendu pour le 17 mars, c'est ça? Donc, ils avaient 30 jours, ça pouvait être pas envoyé pour le 22 février. L'appel d'offres, c'est 30 jours. Et les dossiers sont rentrés pour le 17 mars, M. Girardin. Oui, oui.
Il y a une différence entre la date de...
Ils ont 30 jours et ils devaient rendre pour leur copie pour le 17 mars. Non, non. Oui, mais vous avez mis 30 jours dans le dossier. Il faut que je vous le sorte sur Internet, le dossier. Et puis, il y a bien ce dossier qui a été envoyé le 22 janvier.
Je vois pas sincèrement à quoi rime cette polémique. Je vois pas pourquoi on aurait caché le projet de fermeture de cette piscine et qu'on aurait attendu le début de la campagne électorale pour l'annoncer. Je vois vraiment pas le rapport. Je vois vraiment pas l'intérêt de ce débat. Vous cherchez à pinailler sur des dates alors que l'information vous a été donnée quand la décision a été prise. Que l'information a été... Attendez. Mais parce que c'était pas d'actualité. Non. Du tout. C'était pas d'actualité. Ça a commencé à être d'actualité, ces questions, quand on a évoqué le budget 2015, et notamment quand on a appris que les dotations de l'État nous obligeaient à faire de nouveaux arbitrages. Résultat, j'ai demandé au service technique de réactiver un certain nombre de dossiers pour faire des économies. Parmi les économies de fonctionnement qui avaient été pointées comme possibles, il y avait effectivement les questions liées au bassin de Bernon, qui coûte une fortune chaque année. Je voudrais simplement vous indiquer ce chiffre qui est quand même assez éloquent. Une fois son entrée payée, un usager représente un coût de fonctionnement moyen de 18 euros par usager et par entrée à la collectivité, soit 4 fois supérieur au coût d'un usager de Buléo pour la communauté de communes. Donc c'est ce bassin qui touchait 2600 personnes, si je ne m'abuse, en 2014. Il a un coût 4 fois supérieur à celui de Buléo par usager. Il est fréquenté par très peu de personnes. Alors je comprends et je respecte la nostalgie qu'éprouvent un certain nombre de personnes, qui d'ailleurs ne sont pas forcément celles qui manifestent, pour ce bassin. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens y ont connu, et moi-même, j'y suis allé il y a peut-être une vingtaine d'années, des moments sympathiques, quand il fait beau, c'est agréable, etc. Mais à l'heure où les pouvoirs publics et l'ensemble des collectivités locales s'appliquent à faire des économies, est-ce qu'il est raisonnable de faire en sorte de donner à chaque usager du service public qui va se baigner 18 euros sans pour autant et pour autant se baigner dans un cadre qui n'est pas conforme aux normes de sécurité, aux normes d'hygiène, aux normes d'accessibilité? Moi je suis désolé, on peut pas non plus défendre l'indéfendable là-dedans. Si vous trouvez
j'ajoute que Buléo qui est quand même un des plus beaux établissements, si ce n'est le plus bel établissement de la région, offre quand même 1050 mètres carrés de surface sur 7 bassins, bassin de jeu, toboggan, piscine à vagues, contre 250 mètres carrés à Bernon.
Et pour une entrée de 2,20 € pour les enfants. Oui. Donc, attendez, faut être sérieux. On peut pas comparer deux équipements comme cela. Il y en a un qui est d'une grande modernité et d'un niveau de performance qui lui permet d'accueillir pratiquement 200 000 visiteurs, 190 000 visiteurs chaque année. De l'autre côté, on a un bâtiment ancien qui accueille 2600 personnes, qui coûte 4 fois plus cher et voudrait qu'on le maintienne. Alors, je trouve que c'est la polémique, elle est démagogique. Elle intervient et elle a été accentuée par le fait que c'était les élections. Je n'en fais Je n'en fais pas mystère parce que c'est évident, quand on voit les appels qui ont pu être lancés sur Internet notamment, c'était très directement lié aux élections. Donc on arrête un petit peu, il faut être aussi sérieux. Quand on a à gérer des budgets en restriction, comme c'est le cas, et comme ce sera encore le cas dans les années, il faut savoir prendre des décisions courageuses. J'estime que cette décision, elle est parfaitement courageuse, au regard des nombreuses études qu'on a faites depuis des années, au regard des bilans qui ont pu être faits sur ce type d'équipement. Qui plus est, je veux bien entendre des critiques sur le fait qu'on ait choisi cette décision. Mais quand on vient de mettre, ou quand on met 100 millions d'euros sur un quartier, ce dont aucun autre quartier a bénéficié, il faut aussi savoir mettre dans les deux côtés de la balance, certes une décision qui ne fait pas plaisir, et je le conçois et je peux le comprendre, à côté d'un certain nombre de décisions qui ont été incontestablement positives pour le quartier. Regardez à quoi ressemble le quartier aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, regardez les équipements qu'il a aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, je trouve qu'il faut être un peu raisonnable. Avec les aides de l'État, 26 millions d'euros, merci Monsieur Borloo.
On nous a dit quand même aussi, on a déjà beaucoup fait pour Bernan.
Mais on a fait plus que dans n'importe quel quartier.
Non, mais on ne compare pas.
Vous savez que Bernon, c'est 15 fois l'avenue de Champagne, quand même. Alors,
trois city-stades, une aire de jeu, un gymnase, une salle de muscu, un centre social, une médiathèque, une mairie de quartier. Trouve-moi un autre quartier sur Épernay qui bénéficie d'autant d'équipements.
Donc, on ne vienne pas nous dire qu'on vient porter atteinte à un quartier. C'est pas sérieux. Bien, on passe à votre deuxième question, Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, votre deuxième question.
Vos arguments sont peut-être valables, mais est-ce qu'il y a... On en aurait parlé, vous auriez, en commission ou ailleurs, dire on a des craintes sur le fonctionnement, il y a des problèmes, etc. C'est ça, la formation, et ça pouvait mûrir.
Mais attendez, la commission des sports en a évoqué, à mon avis, depuis 10 ans, une paire de fois, parce que, effectivement, chaque année, c'était la croix et la bannière pour recruter des maîtres nageurs.
Je suis souvent absent, alors.
Il y a eu par le passé des décisions et chaque décision, à chaque fois qu'on a investi dans la piscine, exemple liner, ça a fait l'objet de débats, y compris en commission des sports et au budget. Donc c'est sûr qu'on n'en parlait pas à chaque réunion de la commission des sports, mais à chaque fois qu'on a dû investir dans cette piscine, a été évoqué en commission et dans les débats budgétaires la nécessité d'investir. Donc les débats ont eu lieu.
Je suis allé souvent aux
commissions des sports. Je vous laisse passer à la deuxième question,
Monsieur
Lefebvre.
Depuis 6 ans, 7 ans. Deuxième question, donc sur le pôle métropolitain. Vous semblez en retrait par rapport à vos collègues de Reims et de Châlons-Champagne qui désirent créer une métropole alors que vous étiez d'une part un fervent défenseur d'un regroupement des trois villes. Ce rapprochement était déjà prévu dans la ZANC. Et d'autre part, à l'initiative de la création du G10. G10 qui semble définitivement mort. Pour exister dans la nouvelle région, n'est-il pas impératif de s'unir pour mieux se faire entendre ? Il serait certainement opportun que vous relanciez donc au moins un G3, voire un G6, puisqu'il y a 4 villes qui ne veulent plus en faire partie, au plus vite, pour établir les éventuelles bases de travail et de coopération, avec notamment Reims et Châlons, dont le but de créer, si possible, un pôle métropolitain et éventuellement ensuite une métropole.
Alors,
et à ceci, j'ajoute, s'il vous plaît, il y a une opportunité, parce que pour parler concrètement, comme je le fais souvent, monsieur a paru lors d'une réunion, une des dernières réunions à Château-Thierry, était contre le G10. Maintenant, il est pour, et il est pour plus. Alors, il faut peut-être en profiter. Hein.
Alors, je vais
je
pas polémiquer.
Je crois que c'était Reims qui... C'est le problème de Reims. Reims était à gauche, et c'est ça qui lui faisait peur. Mais maintenant, il semble être partant, donc il faut en profiter.
Alors, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Je suis pas là pour polémiquer avec le maire de Châlons. Mais à votre question, je réponds oui, à savoir que, effectivement, le projet de métropole qui a été passé par l'intermédiaire d'un amendement a surpris tout le monde, pour la simple et bonne raison que le débat sur la métropole n'avait jamais été envisagé préalablement, et notamment pas avec les 100 et quelques maires concernés potentiellement par cette mesure, peut-être 120 ou 130 mairies. Bon, je pense qu'il fallait pas que le débat arrive de cette manière-là, et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai toujours proposé, et du temps du G10 et aujourd'hui, la notion de pôle métropolitain qui permet de faire travailler ensemble des agglomérations distantes les unes les autres, ce qui est différent, ce qui correspond d'abord à notre situation et ce qui est différent d'une métropole. Quand on regarde le modèle de métropole en France aujourd'hui, on parle de Lyon, puisqu'il n'y a pas eu d'élection au conseil départemental dans le Rhône, pour la simple et bonne raison que la dimension de Lyon a tellement débordé sur les limites du Rhône que Lyon a de fait absorbé le département du Rhône. Là, on a bien une métropole avec une ville-centre, avec des villes secondaires dans la banlieue lyonnaise, et ça ressemble à une métropole. Reims, Épernay et Châlons ne ressemble pas à une métropole. C'est pas un espace unique. Il n'a pas la dimension, il n'a pas les 400 000 habitants d'une métropole, il n'a pas la continuité territoriale exigée par une métropole. Donc, pour moi, le débat ne devait pas amener à l'idée de créer une métropole. En revanche, l'idée d'un pôle métropolitain, je l'ai toujours eue. Depuis plus de 10 ans, je travaille sur l'idée d'un pôle métropolitain. Au départ, 10 agglomérations étaient intéressées. Aujourd'hui, une seule n'est plus intéressée, Soissons. Les autres se sont pas forcément positionnées. Et je pense qu'au moins 6 d'entre elles, 5 ou 6 d'entre elles, sont toujours intéressées. Et de ce point de vue, une nouvelle réunion aura lieu prochainement, au mois d'avril, à Reims. La question, après tout, métropole ou pôle métropolitain, pour le commun des mortels, ça... on ne fait pas la distinction. Dans le deuxième cas, on est dans le cadre d'un syndicat mixte entre agglomérations qui peut se mettre en place très vite, qui a permis aux villes de Metz, de Nancy, de Thionville et d'Épinal de construire un véritable élan métropolitain en Lorraine. Je ne vois pas pourquoi ce que les Lorrains ont su faire, on n'est pas capable de le faire au niveau de la Marne. Pour autant, je suis d'accord avec vous, il est nécessaire que dans la perspective de la future grande région, nos agglomérations sachent coopérer entre elles. Le cadre du pôle métropolitain me semble parfaitement adapté. Il permet de grandes avancées. Peut-être qu'un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on aura collectivement envie d'une métropole. Mais vouloir imposer aujourd'hui une solution de type métropole, c'est, j'allais dire, passer par-dessus des dizaines et des dizaines d'élus et de communes qui ont leur mot à dire, qui se trouveraient du jour au lendemain privés de grandes compétences qu'ils exercent aujourd'hui dans le cadre communal ou dans le cadre intercommunal. Et c'est un débat qu'on doit avoir, c'est une réflexion qu'on doit mener tranquillement, en essayant d'avancer de manière coordonnée pour qu'effectivement les gens imaginent un avenir commun, le cas échéant dans une métropole. Pour moi, vouloir aller tout de suite à la métropole, c'est tuer l'idée de la métropole. Si on veut travailler en commun avec les autres collectivités, rien ne nous empêche de faire un pôle métropolitain. C'est simple à faire. Ça n'implique aucun transfert de compétences. Ça permet de mettre en commun des moyens et ça permet surtout d'être efficace très vite. Et puis, c'est en apprenant à travailler ensemble que on a un jour envie, pourquoi pas, de se marier. Je pense qu'il faut vivre ensemble avant de se marier. Que ceux qui se marient le premier jour, généralement, ça va pas très loin. Le premier jour où ils se sont vus. Bon, je pense qu'il faut d'abord construire une vie commune. Et quand on a construit une vie commune, on a parfois envie d'aller plus loin. Je pense que c'est la méthode qu'il faut également adopter en matière d'intercommunalité. Monsieur Angers, je suis pas censé vous donner la parole normalement parce que c'est Monsieur Lefebvre qui a posé les questions, mais avec l'autorisation de Monsieur Lefebvre, je veux bien vous donner la parole pour dire un mot.
Votre mariage prioritaire, c'est avec la Grande Vallée de la Marne.
Mais oui, c'est évident. C'est évident. Enfin, je veux dire. Je rappelle quand même qu'il y a 4 ans, il y a un vœu qui a été adopté à l'unanimité de la commission départementale de coopération intercommunale pour la création d'une communauté d'agglomération. Ce vœu a été présenté par Laurent Madeline, Dominique Lévesque et Franck Leroy. Il a été adopté. À l'époque, Dominique Lévesque était pour la communauté d'agglomération. J'aimerais savoir pourquoi il a changé d'avis. Mais c'est évident quand on voit Épernay et quand on voit aujourd'hui que les habitants, je prends toujours cet exemple parce qu'il est repris également par d'autres, que les bus d'Épernay ne peuvent pas aller de Magenta à Dizy parce qu'on n'est pas dans la même communauté de communes, c'est quand même une aberration, il faut le reconnaître. Mais je ne vais pas relancer un débat pour lequel je me suis déjà abondamment exprimé dans la presse. Monsieur Angers.
Oui, il y a un aspect que vous n'avez pas abordé, c'est quand même la gouvernance, y compris du pôle métropolitain. Quand on voit les habitants qui sont quand même déjà perdus, notamment par rapport à des communautés de communes où ils ont l'impression que, par le biais de l'élection indirecte, les maires des petites communes sont déjà dépossédés de leur pouvoir. Quid de la situation dans un pôle métropolitain où la gouvernance n'est pas clairement établie? Donc c'est aussi un aspect sur lequel il faut évidemment se pencher, parce que je suis pas sûr qu'Épernay soit forcément vainqueur, ne serait-ce qu'en termes de nombre d'habitants qu'elle apporterait par rapport à Reims. Donc il y a des équilibres qu'il nous faut respecter et trouver les moyens de faire passer les messages au travers de la gouvernance qui sera établie.
Je suis d'accord avec vous, mais je n'utiliserai pas les mêmes termes. Pour moi, il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu. Une démarche comme celle-ci, elle doit faire que des vainqueurs. Et évidemment, si on a votre raisonnement, du coup, jamais aucune commune ne viendra avec Épernay si Épernay est plus grosse qu'elle, et jamais Épernay n'ira avec une commune plus grande. Moi, je pense qu'effectivement, notre territoire a besoin de se structurer différemment. Maintenant, c'est quelque chose qui se construit avec la confiance, et la confiance, elle naît de l'échange, du dialogue, du travail en commun, et au bout d'un certain
elle
temps...
Elle naît sur les projets.
Oui.
Elle n'est pas sur l'hégémonie de tel ou tel. Hein.
Je prends un exemple précis. Quand on a voulu créer le pays d'Épernay, il y a 12 ans, à l'époque, on a échoué au tout début. Et certains même avaient proposé qu'il y ait que le pays soit présidé par un président urbain, un président rural, ce qui était aberrant.
Madame Martin qui vous glissait les pots de banane.
C'était pas, oui, bon.
Oui, oui,
bon.
C'est votre
il y a prescription.
J'ai l'impression, mais
il y a prescription. C'est en apprenant à travailler ensemble dans le SCOT, dans le cadre du SCOTER et dans le cadre du pays, que les élus ruraux et urbains ont appris à se connaître, ont appris à s'apprécier, qu'une certaine confiance est née entre eux. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir un SCOTER et le premier SCOT de France pratiquement approuvé à Épernay, et un SCOTER et un pays qui fonctionnait. Donc il faut du temps. C'est pas anormal qu'il faille du temps. C'est... Oui, mais en l'occurrence, le cadre juridique, il a été mis en place dès 2010, c'est le cadre du pôle métropolitain. D'autres, je crois que 13 pôles métropolitains existent en France, dont le Sillon Lorrain à côté de chez nous. Ça fonctionne bien. Peut-être qu'un jour, il faudra aller au-delà. Mais commençons déjà par aller vers le pôle métropolitain, et peut-être qu'un jour, les membres du pôle métropolitain, qui seront non seulement les 3 agglomérations de Reims, Épernay, de Châlons, mais peut-être d'autres agglomérations, et peut-être aussi tous les espaces situés entre nous, se diront, on travaille bien ensemble, on s'entend bien ensemble, il faut maintenant aller vers plus d'intégration dans une métropole. Peut-être qu'un jour ça se fera, mais on commence pas par l'étape finale, on commence toujours par le début. Et je pense que là-dessus, à vouloir aller trop vite, on a probablement commis quelques erreurs qui altèrent peut-être l'image d'une démarche métropolitaine, mais qui est néanmoins ô combien nécessaire pour notre région. Dernière question, Monsieur Lefebvre.
Oui, oui, je répète. La cuisine centrale, où en est votre réflexion sur ce dossier ? Confectionnera-t-elle les repas à la rentrée scolaire 2015-2016 ?
Alors, Monsieur Lefebvre, vous deviez être étourdi ou penser à autre chose, puisque je cite mes propos du 19 janvier dernier, que vous pourrez écouter à nouveau au Conseil municipal lors de l'examen du budget primitif. J'indiquais, pardonnez-moi, j'ai pas l'habitude de me citer, mais là, en l'occurrence, je suis bien obligé de le faire. Après que la production des repas destinés au portage à domicile a été confiée l'an dernier au centre hospitalier, 2015 va marquer l'externalisation de la production des repas destinés à la restauration scolaire. Cette décision est prise pour éviter notamment d'avoir à investir dans une nouvelle cuisine centrale, celle actuellement en service devenant obsolète. L'emploi des personnels titulaires demeurera bien entendu assuré. Donc, un appel d'offres a été lancé, ou va l'être, conduire à une nouvelle organisation de la restauration scolaire à la comptée de la rentrée prochaine. Ce n'est donc plus dans la cuisine centrale que seront fabriqués les repas, puisqu'il nous fallait investir entre 1 400 000 euros et 1 600 000 euros pour construire une nouvelle cuisine. Ce n'est pas un coût délirant, mais c'est le coût d'un équipement comme celui-ci aujourd'hui. Les normes n'ont plus rien à voir avec celles qu'avait l'équipement dont nous disposons. Vous le connaissez peut-être un peu, il y a des marches dans tous les sens, on monte, on descend en permanence. Aujourd'hui, il faut tout ça à plat, il faut la réglementation handicapée. Et plutôt qu'effectivement de construire un nouveau restaurant scolaire, on a choisi d'externaliser cette prestation, en gros de passer par le privé, après avoir tenté de passer par le public, et avec une solution avec l'hôpital dans un premier temps. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout.
Et...
Non, c'est pas que c'est plus possible. C'est que. Mais non, Monsieur Lefebvre, laissez-moi. Vous êtes terrible. On a tenté des rapprochements avec l'hôpital. L'opération s'avérait trop coûteuse et j'allais dire vous militiez pour que cette solution, enfin, ou Monsieur Thévenin militait pour que cette solution ne se fasse pas puisqu'il l'a trouvée trop chère. On a cherché ensuite des solutions avec Châlons et Reims parce que eux-mêmes. On pensait qu'ils avaient des capacités pour fabriquer des repas pour nous. Châlons était en mesure de fabriquer la moitié de nos repas, mais pas plus que la moitié de nos repas. Et après qu'on ait pensé faire fabriquer nos repas à Reims, Reims nous a dit que c'était pas possible et trop compliqué. Donc, du coup, on s'est tourné vers le privé, et c'est sans doute le privé qui va faire nos repas. Mais encore une fois, l'important, c'est la qualité des repas. On sera extrêmement vigilant sur le cahier des charges, à tout point de vue, y compris sur les repas bio qui sont une obligation légale. Et l'important, me semble-t-il, c'est que on puisse demain fournir des repas de qualité aux enfants d'Épernay, peu importe que le cuisinier soit du statut public ou privé. Je pense que c'est tout à fait secondaire, et je pense qu'en plus que les... Très sincèrement, je suis même convaincu que fabriquer des repas n'est pas forcément le cœur de métier d'une collectivité. Assurer, en revanche, la livraison de repas à des enfants qui nous sont confiés dans de bonnes conditions, ça, c'est notre cœur de métier. Donc, on continuera à faire en sorte de servir avec du personnel municipal, les enfants qui nous sont confiés, mais les repas seront construits dans une cuisine privée. Et pour moi, ça pose pas de difficulté, parce que je n'en fais pas une question de principe ou une question dogmatique ou d'idéologie. Pour moi, le plus compétent, c'est souvent le privé dans certains domaines, c'est souvent le public dans d'autres domaines. Il se trouve qu'en matière de repas, les Français sont numéro un mondiaux de la restauration collective. Je vois pas pourquoi demain on n'aurait pas une société qui va répondre aux critères qu'on a fixés pour que les enfants d'Épernay aient des repas équilibrés, goûteux, et qu'ils apprécient pas demain ces nouveaux repas.
Donc au mois de janvier, on était tourné vers le public. Là maintenant, on sait que c'est plus possible. Non, et que c'est
bien avant. La question du public, elle a été évoquée l'année dernière, quand on avait, avant même les orientations budgétaires, on avait envisagé des rapprochements. Je vous avais même, me semble-t-il, parlé de l'hypothèse de Reims ou de Chalon. Après avoir travaillé pendant plus d'un an avec l'hôpital, il y a ça 3 ou 4 ans, et ça n'avait pas pu déboucher, il y a un moment où il faut quand même, là aussi, prendre ses responsabilités.
Et combien de personnes sont concernées par changement de travail, quoi? Ils vont servir les plats, mais ils vont faire autre chose, alors combien de personnes?
Ils vont tous être réaffectés dans les services municipaux à des tâches parfois différentes.
Oui, il y a combien de personnes?
Mais ils sont tous titulaires, enfin tous ceux qui sont titulaires de la fonction publique vont rester dans les effectifs.
Combien
ça représente? 7 personnes, 7 titulaires.
Personnes.
On travaille déjà avec le public, hein, parce que le partage de repas et les deux résidences des personnes âgées sont livrées par le public maintenant. Vous le savez, hein, ça. Et nous avons fait une enquête de satisfaction, et c'est très très bien.
C'est vrai que l'hôpital était une solution intéressante pour nous sur les personnes âgées, parce que et d'ailleurs on travaille avec l'hôpital et on continuera à travailler avec l'hôpital sur les personnes âgées, parce qu'ils ont la capacité à faire des repas incluant les différents régimes qui sont préconisés par les médecins. Donc l'hôpital a un savoir-faire sur des repas différenciés en fonction des contraintes alimentaires qui sont fixées, et c'est très bien. Pour les enfants, j'allais dire le privé ou le public, on a tenté la piste publique, elle s'est avérée infructueuse. Je ne vois pas pourquoi on ne tenterait pas la piste privée. Mais j'ai jamais caché quoi que ce soit, hein, dans mes propos.
Simplement, moi, je ne suis pas persuadé que la piste que vous allez employer soit celle qui réponde au mieux au premier point de l'agenda 21 sur la promotion et des produits locaux et du bio, puisque passer par un privé, il sera nécessairement concerné par des volumes plus importants. Et on sait qu'en matière notamment de bio, l'une des grosses difficultés, c'est d'avoir matière à achalander de façon régulière les consommateurs.
Hein, donc, mais monsieur Angers, je pense que vous vous trompez, parce que dans le cahier des charges, il est stipulé que les 20% de bio devront être impérativement produits et livrés. Et le privé a la capacité, parce qu'il a aussi peut-être plus de souplesse, à répondre là où le public est en grande difficulté pour le faire. Et donc, il y aura bien on ne l'avait pas aujourd'hui, on avait un repas bio tous les... Je ne sais plus quel était le pourcentage de bio, on était peut-être à 8. On avait une semaine bio de temps en temps, parce que c'était très compliqué à organiser. Demain, on aura alors 20%, lorsque ce sera un repas par semaine, un repas complet par semaine, sur les 5 journées, il y aura une journée bio. Et c'est possible, parce que le privé a su parfois organiser des filières que le public n'a pas toujours été à même d'organiser, aussi parce que c'est pas fondamentalement son métier, quoi. Mais on veillera évidemment à la qualité. Si vous souhaitez participer un jour à une dégustation de repas, on le fera ça à l'aveugle pour voir si effectivement c'est satisfaisant. Bien. Les questions ayant été traitées, je vous remercie de votre attention. On a la date du prochain conseil ? 20 avril, prochain conseil. Merci.